Et bonjour tout le monde et bienvenue au troisième épisode de Divan Quest. À ne pas confondre avec Quest, la référence du divan d'examen médical.
Ok.
Je suis passé de la fuck, mais vraiment drôle pour nous autres right now. Fait que les gars, calique, à quoi vous avez joué cette semaine?
Hey, ben moi j'ai finalement, c'est la semaine où je reçois des affaires. J'ai reçu finalement mon EGS 101.
Oh mon dieu, la fin de cette épique saga.
Hey, merci à Mathieu qui l'a vu passer sur, sur Facebook, qui m'a dit « Man, il y a un gars qui en vend un », puis qu'on a commandé ça. Ce fut un tournoi d'émotion. Quand je l'ai ouvert, j'étais comme tabarnak, c'est donc ben beau cet écran-là.
Ben, ça fait plaisir.
Tu te sens illuminé.
Illuminé, oui, dans tous les sens du terme. Donc, ouais, fait que ma semaine a été un peu de gaming sur Game Boy Advance, hein, comme de fait. J'ai fini mon Metroid, j'en reparle plus tard. J'ai joué un peu à Donkey Kong aussi, là, que t'avais en extra, que tu m'as.
Oui, Donkey Kong 94.
Oui, qui est quand même un vraiment bon jeu. Donc ça ressemblait à ça. Sinon j'ai aussi reçu ma Pebble Time Steel. C'est la semaine de cadeaux. Surtout quand tu l'as déjà payé, c'est encore plus fun. Donc finalement reçu la Pebble Time Steel. Je ferai pas un review là, pour l'instant. Peut-être quand je l'aurai utilisé longtemps là, mais pour l'instant vraiment content. Belle montre pour ceux qui connaissent pas. C'est une montre intelligente mais qui est pas de touch. C'est qui évoque des boutons mécaniques qui fonctionnent un peu différemment là. Moi j'adore, c'est exactement ce que j'ai besoin. Sinon j'ai joué pas mal trop à Hearthstone en fin de semaine.
Ouais. Ça arrive, ça.
Ça, c'est des choses qui arrivent. Oh, juste une game. Oh, un autre. Oh, oh shit, ça fait 3 heures. Ouais, ça a donné ça. J'ai reparti Diablo 3 aussi parce que tout le monde jouait. Je dois m'en rejouer. Puis, ben, chez mon ami, là, toujours pas de level 70 après tout ce temps. Mais, beaucoup de plaisir à t'approcher des monstres. Puis, sinon, ben.
Après tout ce temps, je pense que j'ai à peine atteint l'acte 2, sérieux.
Ouais, non, mais tu sais.
Je suis peut-être pas le plus grand représentant de, ouais, fan de Diablo.
Je me suis rendu à l'acte 2 4 fois. Mais je pense que c'est pas mal là que ça
c'était mon Diablo 2. Diablo 2, ça a été ça. 22 fois l'acte 2, jamais plus loin.
Mais il y a le fun de Nestique jusque-là.
Ouais, mais Lutte Golem, tu sais. Lutte Golem.
Ouais, ouais, ouais.
C'est la ville, là, l'acte 2. Oui, comme une fois t'es allé, puis tu t'appelles pas le nom de la ville.
Ouais, comme en histoire dans Diablo, c'est comme clic.
Ah, ma souris pétée. Non, sinon, ça ressemble à ça. Un peu de lecture aussi avec le Force Friday. On en reparlera un peu. Je pense que t'as plus suivi ça que. Que moi, Mathieu. Fait que ça ressemble à ça, ma semaine. Moi. Semaine de retour au travail, donc moins de temps quand même.
Ben, merci, Dan. Jeff?
Mais écoute, parlant de moins de temps, on n'est pas tous en vacances comme notre collègue Mathieu ici.
Hey, allô!
Fait que beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de temps. J'ai quand même eu chance de jouer avec Grow Home, qui est...
un simulateur, je pense, de culture hydroponique, c'est ça? Fait par Dr. Dre.
On en repasse sur un autre podcast.
Chris, quand est-ce que tu l'as préparé, cette joke-là? C'est clair!
Donc Grow Home, on en reparle tantôt. Et Star Realms, pas la version jeu vidéo, mais sur la version card game, board game, jeu de table.
Un vrai jeu avec des objets pis tout.
Un vrai jeu dans le vrai monde.
Ben, c'est
bizarre, on en reparle.
C'est excentrique.
Mais je pense que le highlight de gaming de ma semaine, ça a été mon rush de préparation. Oui, préparation. Je suis intense comme ça. À Destiny 2.0.
Il a fallu que tu te prépares.
Non, mais c'est ce qu'il appelle le moment of triumph, en fait, où c'est comme des achievements assez difficiles à atteindre.
Ben, on a jusqu'à. Parce que je joue à WoW, lui. Mais...
ouais, mais on a jusqu'à la semaine prochaine pour les faire. Puis après ça, c'est fini.
Après ça, il irait à moi parce que je joue à WoW, lui.
Je sais pas, t'as pas su à WoW quand même.
J'ai hâte de voir, c'est pas mon jeu humiliant.
Mais non, donc c'est ça. Donc, avec la patch 2.0 qui arrivait et qui changeait beaucoup, beaucoup de jeux, où que là, c'est. La plupart des flops de ce que le monde reprochait au jeu, Bungie ont écouté, puis ça a été réparé mardi cette semaine.
Ouais, ben, je lisais justement un peu là-dessus, puis j'ai quasiment le goût de me le pogner. Quasiment.
Quasiment.
On s'entend, là.
Tout ça pour dire que j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, finalement. Mm-hmm. Et commencé Aftermath aussi, le roman de Star Wars qui est sorti vendredi dernier.
Ouais.
Que je crois être beaucoup moins avancé que vous autres, par exemple.
Okay, ouais.
À cause de Destiny and stuff.
Bon, on en parlera un petit peu avant de tomber dans nos reviews, puis on regardera ce qu'on fait avec ça.
Ouais. Mais en gros, c'est ça.
Alright, merci Jeff. Puis de mon côté, ben j'ai entamé Gargoyle's Quest, dit-il, de par deux fois, en Game Boy. C'est pas un jeu tellement méconnu, là. Il a été réalisé sur la Virtual Console, puis tout ça, mais je l'ai finalement pogné pour Game Boy, fait que j'ai commencé à jouer.
On parle Game Boy, Game Boy.
Game Boy, Game Boy, là. Ouais, ouais. Noir et
l'original,
blanc, là,
ouais. Jaune et blanc. Jaune et noir.
Il est pas assez rétro pour jouer sur un vieux Game Boy qui coûte 83 pièces à batterie pour 10 minutes, là, qui pèse une tonne et quart. Là,
mais... Parce que j'en ai un aussi à cette heure. Maudit beau bibelot, mais fuck off, je jouerai pas là-dessus. Là. Il roule bien. À moins qu'un jeu avec des bugs de compatibilité, moi je joue sur GBASP, puis ça va s'arrêter là, s'il vous plaît. Puis c'est un jeu avec des sauvegardes par mot de passe. Fait que là, tu sors ton téléphone, tu prends des photos de l'écran. Puis c'est tout.
Je pense que t'as dit, tu sors ton pad, tu prends un papier. Non, non, t'es.
Je pense que la moitié des photos sur mon téléphone depuis un mois et demi, c'est juste des écrans de password.
Mais c'est intéressant quand même, parce que c'est le rétro qui arrive en 2015, puis avec une technologie qui crée tellement de problèmes.
Ça aurait dû être des codes QR, puis avec une caméra sur ton Game Boy ou ton DS, whatever. Puis tu peux scanner le code QR, genre.
Ouais, mais si t'es rendu avec cette technologie-là, t'es capable de faire un save.
Ben, ils pouvaient déjà en faire des saves, il y a des jeux qui l'ont. Sauf non, que ta cassette meurt jamais parce qu'il n'y a pas de batterie.
C'est vrai. Mais on est loin du bon vieux temps où c'est que la fin du booklet du jeu, où il y avait comme une section note,
avec des lignes.
Ces petites lignes, d'écrire les mots de passe chacun des tableaux.
Moi, j'aime ça trouver des livres de jeux qui sont arrangés de même. Je sais que le monde, là, les collectionneurs, c'est juste comme faut que les jeux soient pristine, puis que les livres aient jamais été touchés. Puis that's fucking bullshit, là. Je veux un livre avec plein de notes écrites à la fin, je trouve ça tellement vivant, là.
Si on parle de password, là. Le pire jeu avec un password.
Kid Icarus.
Non, j'ai pas joué. Moi, c'était, cherche le nom, Dr. Robotnik Mean Bean Machine au Game Gear.
Ah, sacre.
Où est-ce que les passwords étaient les petits bonhommes qu'il y a dans le jeu? Fait que ton password, tu sais, petit bonhomme bleu, petit bonhomme rouge, petit bonhomme jaune.
Tu peux pas les écrire.
Fait que là, t'écris les couleurs, mais tu sais, c'est.
B, R, Y.
C'est weird, là. Ton password, c'est ce que je comprends, mais même au délai des chiffres, il faut le prendre en note.
Ben, il y a un des Castlevania qui t'a arrangé de même aussi, là, que c'est genre une hache, le vial d'Aubénil, pis ces cossins-là. Là. Fait que là, tu te mets un code là, dans ta tête, pis tu le notes. Non, mais sur Kid Icarus, si je me trompe pas, là, je me trompe peut-être ici, là, mais c'est des minuscules et des majuscules, pis c'est alphanumérique. C'est complètement cinglé, là.
Mais combien de tableaux à Kid Icarus?
Ben, c'est pas.
Cap.
Non, mais c'est pas tellement des tableaux, mais tu sais, t'as des.
Overkill!
c'est vaguement RPGI, là. Fait que t'as des power-ups que tu ramasses, tout ça. Fait que c'est ça qui stock, tu sais. Puis c'est super facile pour eux autres de le faire de même, là. Ils encodent des caractères dans une table, puis ils le convertissent. C'est la meilleure façon pour le programmeur. Pour l'utilisateur, c'est de la merde, là. Fait qu'en tout cas, Gargoyle's Quest, que j'ai commencé en Game Boy. Hein? Là, on va pouvoir faire un segue pour parler que j'ai parlé de programmation. Parce que c'est quasiment c'est pertinent.
Bon. Prochaine fois, si t'attirais pas l'attention sur le segue, ça va être encore mieux.
Ouais, je vais le faire toutes les fois parce que je trouve ça quasiment clever.
C'est correct. Segue, le moyen de transport. Là.
Ouais, c'est ça.
Oh, on n'attire pas l'attention là-dessus.
Moi, ce segue, ça attire l'attention. M'excuse.
Ben, ça fait des crises de bons vidéos de fail. Mais non, si tu vois quelqu'un avec un segue, tu le filmes. Parce que t'es sûr que t'as de quoi crisser dans un montage de fail. Là. C'est
fail voué à waiting l'échec. To happen.
Ah, tellement. Mais c'est ça, fait que j'ai beaucoup programmé parce que, ben justement, on voulait améliorer un petit peu la facture de production du podcast. Fait que je me suis programmé un petit soundboard. Fait que si le son sort tout croche pendant le pod, ben c'est tout parce que je sais pas programmer. Ne surprenant personne. Pas comme si c'était ma job, tu sais. C'est ça. Puis quelques autres projets personnels qu'on parlera sûrement dans l'avenir.
Ouais, sûrement.
Et quelques acquisitions en NES et en Game Boy. Je me suis ramassé un jeu que ça faisait longtemps que je cherchais au NES, car beaucoup de souvenirs de jeunesse. Crash and the Boys Street Challenge, jeu d'Olympique fucked up. Je prendrai pas le temps d'en parler parce que ça va sûrement venir. Il est pas assez connu à mon goût, ce jeu-là, pis c'est trop cool.
Là, ça me fait penser, j'ai oublié de mettre mes acquisitions à moi.
Oh,
mon game chasing. Tu sais, j'en ai parlé un peu là.
Oh,
j'ai fait mon gros game chasing. Je me suis ramassé à Saint-Léonard à l'heure de pointe. Fait que je me suis dit de m'attendre à la fin de l'heure de pointe. Hein? Malo marche au plus métropolitain, faire du game chasing.
Ça semble une bonne idée.
Écoute, ben, je savais que ce serait pas awesome, là. Je suis pas cave à ce point-là. C'est comme, je sais pas comment te décrire ça, c'est comme un Walmart de pauvres, imagine Walmart mais de ouais, vraiment
Zellers
pire.
Kmart
pire,
il est fermé, c'est
Woolco
peut-être.
C'est beau. On rentre le Target, c'est juste pour pas reculer dans le temps encore là.
Mais tu sais, c'est vraiment là, de la scrap de partout. Tu rentres, tu fais, je me retrouverai jamais dans le magasin. C'est on dirait un entrepôt avec des allées de 3 pouces de large. Mais ils ont un site web parce que c'est vraiment pas un marché aux puces parce que le monde arrive des tables. C'est des kiosques permanents. Fait qu'on ouvre le site web. Ah, les kiosques de jeu sont là. Fait que beeline pour le kiosque de jeu.
Ils ont-tu un app?
Je pense pas. Ça, c'était
l'incident. Je crois qu'ils cherchent des contrats.
Ouais, c'est ça.
Bref, premier magasin, un peu de la scrap. Le gars, il comprenait pas que je cherchais d'autres choses que Pokémon pis Mario, là, tu sais. Moi, je m'en crisse de Pokémon Mario. Je regarde ce que t'as d'autre. Ouais, mais tu sais, Pokémon. Ta gueule. Fait qu'il y avait rien de bon là. J'étais allé voir à l'autre magasin, pis c'était comme pas pire, mais tu sais, vu que je suis pas mal dans mon trip de Game Boy, pis je savais que j'avais ma console qui s'en venait, tu sais. Mais j'ai quand même trouvé un Dragon Warrior Monsters.
Yes.
À un bon prix, puis un petit 10$ investi. J'ai joué comme 5 minutes à date, là. Puis j'ai hâte de le laisser un peu plus, là. Surtout que, étant fan de Pokémon, malgré ce que je disais à l'autre dude, là, ça risque d'être le fun quand même.
Tu gardais ta poker face. Ouais. Pokémon, psst.
Non, c'est parce que c'est n'importe quoi, ils vendent
avec son t-shirt de Pikachu, ouais, puis...
et mon casque, mes amis.
Puis ton petit sac à dos en
vente de Pokéball. Dans les marchés aux puces, puis dans les magasins, ils vendent ça à un prix ridicule juste à cause du nom, là. Je veux dire, ça vaut pas 50$ une petite cassette de Pokémon.
Bref, pattern.
Fait que du game chasing ridicule. De mon côté.
Ouais, j'ai même pas le mérite, c'est ça, du game chasing. Je suis allé voir nos amis à Saint-Félix, au marché aux puces. Puis j'ai le même gars avec qui on a trouvé ton AGS 101, Dan. Il y avait des jeux à vendre. Donc j'ai ramassé ça, Crash and the Boys, Castlevania 1 au NES. J'ai ramassé. Bon, j'ai un blanc. J'ai ramassé. Ah, DuckTales.
DuckTales,
Crash and the Boys.
Ouais.
C'est moi qui fais le lien, puis j'ai jamais allumé avant, mais c'est comme le nom du Ben dans Scott Pilgrim.
Ah, ta boy! Spoilers, Clash at Demonhead, c'est aussi un Christy de bon jeu de NES.
Damn!
On ferait une rétrospective.
Mais on pourrait faire un review aussi du jeu de Scott Pilgrim, comme Christy de bon jeu de couch pop. Hey, on va podcast où, là? On se ressente un peu parce qu'on
dirait pas. On dirait un brainstorm.
Mais on se fera un futur pod sur un thème de Scott Pilgrim.
Mais c'est ça, puis une couple de jeux de Game Boy. Le seul important dans ça, c'était Mega Man Extreme 1 et 2. Le 2 est pas encore arrivé, mais je vais avoir cette petite collection-là qui est un petit peu dure à trouver, un peu dispendieuse pour du jeu de Game Boy de compléter. Et ouais, comme on a mentionné tantôt, c'était le First Friday vendredi dernier. Pour ceux qui seraient pas au courant, c'est le moment de l'année où Disney a décidé d'annoncer publiquement et très maladroitement tous les produits de Star Wars reliés à Force Awakens, le nouveau film, et non aussi.
C'est toute la nouvelle gamme de jeux.
Jouer
Star Wars.
Je tiens à rassurer tout le monde, on n'a pas frappé d'enfant.
Oh my god, je voulais qu'on en drop une ligne parce que ça m'a tellement fait mal. Il y avait un. Sur le Reddit de Star Wars Collectors ou Star Wars Toys, il y avait quelqu'un qui disait bon, ben je suis allé à la lunch à minuit en Australie. Puis c'était le chaos, là. Ça avait l'air d'un Black Friday aux États. Puis t'as plein d'enfants qui étaient là, genre déguisés avec leurs parents, puis qui espéraient donc avoir un jouet, t'sais. Puis ça se faisait pousser à terre par des neckbeards, des gros collectionneurs de geeks pourris avec aucun estique de respect qui veulent aller garder ça scellé sur une tablette puis jamais jouer avec.
Ou les revendre sur eBay le lendemain matin.
Et pire encore, les vendre sur eBay.
Parce qu'on s'entend là, que le jouet, il y en a plus, là, mais dans 6 mois, ils vont être ses tablettes. Puis, t'sais,
c'est ça.
Bref. Ouais, mais
du bon côté,
ouais.
Tout le monde a vu le petit robot BB-8, la petite sphère télécommandée par téléphone, 190$ au Canada. J'ai fait utilité, là, mais c'est n'importe quoi. Il n'y a personne dans 3 semaines qui va jouer avec, on s'en sac. J'ai quand même ramassé un Lego, le X-Wing, le nouveau X-Wing en Lego, puis une coupe de Funko Pop là, des nouveaux films, et le livre Aftermath, qu'on a commencé à lire. Ben, je suis rendu à peu près un tiers dans le livre.
Ça doit ressembler à ça, peut-être un petit peu moins, mais proche.
Ouais, en fait, part 2. Je pense qu'il y a 4 parts dans le livre. Okay. Je suis dans le début de part 2.
Encore rendu, mais proche.
Vraiment loin de là.
On va attendre d'avoir fini, puis on va s'en rejaser, mais...
C'est sûr.
Que du plaisir, Adop.
Ouais.
Que du plaisir. Mm. C'est ça de mon côté. Puis on a eu une petite soirée ensemble qu'on s'est vu entre les deux podcasts. Mm-hmm. On se garde ça pour la fin.
Ouais.
À ta boy.
Ben, ça a l'air qu'on t'sais, on fait pas juste travailler ensemble.
Travailler.
Travailler.
Galope.
On est des amis dans la vraie vie, tu sais, c'est spécial.
Non, c'est cute.
Non, mes amis.
Je suis ému, pis tout, là. Les émotions, là, pis toutes ces affaires-là, là. Fait que première review, c'était GF.
Yes. Grow Home.
On t'écoute.
Donc, Grow Home. Écoutez, ça faisait partie des jeux. Les jeux gratuits, en fait, sur PlayStation 4 ce mois-ci. Je suis comme un.
T'avais pas comme deux fois que tu ramasses les jeux gratis pour faire des reviews?
Non, en fait.
Ah, t'as acheté l'autre?
C'était dans un de nos premiers podcasts qu'on a jamais publié.
Ah, c'est ça.
Ouais.
Ah, je peux quand même caler que t'es cheap, là. Mais est-ce correct, vas-y?
Non, mais ils sont là. Après, autant les essayer. Surtout que c'est pas des jeux gratuits. C'est pas un jeu qui était disponible avant puis qui devient gratuit d'un coup. C'est des jeux qui sont release gratuits
ben
sur la
oui,
console.
Je blague.
Fait que c'est intéressant. Donc, Grow Home. On parle d'un. Il est disponible sur PlayStation 4, aussi disponible sur PC. On parle d'un jeu d'aventure, jeu de plateforme, aventure, à la troisième personne. Fondamentalement, là, c'est un jeu d'escalade. Okay? C'est un rock climbing simulator, si on veut. Et malgré tout, c'est quand même très très intéressant. Le thème que j'essaie d'installer, je pense que c'est des. Je vais parler de jeu avec un étrange gameplay, je pense.
Ou pas de gameplay.
Ou absence de gameplay.
Ouais.
Non, donc, dans Grow Home, on joue, le personnage qu'on joue, c'est un petit robot qui s'appelle Bud. Donc, B-U-D pour le Botanical Utility Droid. Et Bud est envoyé sur une planète inconnue par Mom. M-O-M. Je suis pas certain qu'est-ce que ça représente, le MOM, mais c'est le nom de l'intelligence artificielle dans ton vaisseau. Et en fait, c'est super simple. T'arrives au-dessus de la planète, l'intelligence artificielle te dit « Ah, gars, il y a une belle fleur en bas, va voir. » Puis quand t'arrives en bas, elle dit « Bah, sœur, arrange-toi pour revenir. » Fait que la prémisse du jeu, c'est aussi simple. Faut que tu fasses grossir la plante pour être capable de revenir dans ton vaisseau. That's it. Ceci étant dit, donc la plante, c'est une star plant que tu dois faire grandir avec comme les star seeds, en fait, là, que tu dois t'agripper après, puis tu la diriger, puis elle peut avancer jusqu'à une certaine longueur. Tu la connectes à des energy rocks qui flottent dans les airs, puis ta plante augmente, puis tu montes à travers comme des îles qui flottent dans le ciel, puis tu montes d'une île à l'autre. Et basically, c'est ça le jeu. Tu peux ramasser des cristals dans le jeu qui te ramasse ton énergie. Plus t'as d'énergie, plus tu vas pouvoir sauter plus haut, tu vas pouvoir. Ça va augmenter les habiletés, les aptitudes de du petit robot que tu contrôles.
Ouais, là, en regardant le gameplay, si t'as pas trop de cristaux, tu marches comme un gossou même.
Marcher comme un gossou, c'est autre chose. J'y viens dans un instant.
C'est une feature.
C'est une feature, si on veut, ouais. C'est un jeu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions avec l'environnement. De la façon que le jeu a été développé, tu peux interagir avec l'environnement au complet. C'est un climbing game et tu escalades avec le trigger de gauche, trigger de droite ou le bumper de gauche, bumper de droite, peu importe. Il contrôle chacune de tes mains. Puis quand tu passes sur les triggers, dans le fond, il va avancer une main après l'autre. Tu peux t'agripper après tout. Il n'y a absolument rien après quoi tu peux pas t'agripper les mains. Après le plancher, après une fleur, un arbre, une roche, peu importe.
Même le cactus qu'on voit là.
Même le cactus. Puis à fond, la façon que le jeu fonctionne, c'est que tu alternes gauche-droite, 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 puis le personnage escalade. C'est une mécanique qui est super simple à comprendre. Puis à part sauter, c'est la seule mécanique du jeu. Là, tu peux avoir dans l'environnement, il y a des plantes que tu peux agripper puis tirer dessus. Puis quand tu l'arraches, il se met dans le dos, puis ça fait un petit parachute. Puis ça te fait un genre de flower parachute, flower shoot que tu peux descendre. Il perd ses pétales, fait un parachute pendant un certain temps. Ce qui te permet de pas mourir. Parce que le seul danger dans le jeu, finalement, c'est de tomber de la fleur, puis de tomber au sol. Si on est trop haut, ben, tu meurs.
Mais de faire dropper du vaisseau au début, ça
c'est correct.
Ah, okay.
Ouais, cherche pas. c'est un jeu qui a été développé. Tu sais, tu parlais de la façon que le personnage se promène. Là. C'est un jeu qui a été créé avec Unity. Donc, c'était développé dans l'engin Unity qui, Matt, bon, plutôt, on a joué un petit peu avec ça. Donc, on est familier avec la façon que l'engin gère ses mécaniques, gère les contrôles, gère la gravité, tout ça, la physique. C'est à la fois, je pense, sa force puis sa faiblesse à ce jeu-là. C'est super intéressant que tu puisses interagir avec tout. Les contrôles, les mouvements sont procédurales. Le personnage va toujours réagir à ce que tu rencontres. Sauf que le personnage se retrouve souvent dans des positions impossibles avec la tête entre les deux jambes ou les pieds à l'envers puis la tête de l'autre côté, juste parce que l'environnement te mène à te ramasser dans ces positions-là. Ce qui est pas toujours évident.
Ouais, justement, on regarde le gameplay là, puis tu sais, je comprends que c'est l'idée que tu peux grimper partout puis que c'est un petit robot maladroit là, mais considérant que tu passes le plus long moment du jeu à grimper, il a vraiment de l'air cave quand il grimpe.
il est pas très élégant. Et en fait, ça souffle. Tu sais, c'est super bien l'idée puis la façon que c'est fait puis que tu peux s'équiper après tout, puis je peux apprécier le con qui va derrière ça, mais je trouve que ça souffre de la physique de Unity qui, si tu la gères pas puis tu t'en sers telle quelle, c'est comme si t'étais dans du beurre ou dans tous les mouvements sont trop grands, trop larges, c'est difficile de t'arrêter,
surtout le système d'animation d'humain là, de bipède,
c'est ça, exactement.
Ouais.
Puis le rig qui est utilisé, c'est que ça l'utilise clairement les rigs par défaut de Unity.
Ouais, moi qui connais pas la programmation, mais je regarde le bonhomme marcher, puis ça me fait penser, comment ça s'appelait le jeu, le Coop, je sais pas trop quoi, le bonhomme avec ses deux jambes là, qui,
Coop, le coureur astique, ouais, c'est bon.
Ben, un petit peu, effectivement, un petit peu. Puis c'est ce qui vient nuire au jeu, parce que combien de fois, en étant là, j'étais 500 pieds dans les airs, le but du jeu est super simple, faut que tu montes jusqu'à 2000 pieds. À 2000 pieds, c'est fini, fait que c'est un jeu qui est très, 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 très court. Mais là, t'es comme 500-600 pieds dans les airs, là, tu marches sur la branche de ta plante qui est faite procédurale, là, fait que c'est pas un terrain plat, fait que c'est croche, fait que tu sais jamais quand est-ce que tu vas perdre pied, faut que tu t'agrippes. Puis ton personnage, en plus de ça, ne marche pas toujours en ligne droite, parce qu'il est un peu comme incertain sur ses pieds. Puis quand tu veux arrêter, parce que faut que tu arrêtes là, sinon tu tombes, ben il va tout le temps overshoot un petit peu. Tu te ramasses tout le temps à tomber, puis t'es obligé de prendre ton parachute, passer de revenir, te ragripper sur le côté, puis remonter
ça,
encore.
Ça me fait penser à Little Big Planet, là, les contrôles un petit peu floaty.
Ben exactement, c'est une super bonne comparaison. Effectivement, ça ressemble beaucoup à Little Big Planet, de, où facilement tu veux t'arrêter sur le bord, puis il dépasse un petit peu tout le temps. Là, il, comme ça veut un élastique, puis tu te tiens en arrière. Enfin, ça vient toujours un peu comme hasardeux, un petit peu difficile. C'est assez ardu de jouer. Mais malgré tout, le look low poly du jeu, avec les graphiques minimalistes, la petite musique là, qu'on entend comme présentement, là, qui est aussi, tout aussi minimaliste que les graphiques, avec le personnage qui sonne tout cute, avec Mom qui te parle régulièrement dans le jeu. Ça reste un petit jeu d'exploration qui est super intéressant, qui est super agréable, puis qui a quand même son charme à travers tout ça.
Mais tantôt, tu disais qu'il faut monter à 2000 pieds, puis c'est fait. Mais en fond, c'est parce que tu peux recommencer plein de planètes, fait que c'est...
Pas plein de planètes. Okay. Tu montes à 2000 pieds, à 2000 pieds, t'atteins ton vaisseau, c'est fini. Ça débarre une fonction où tu peux sauter deux fois plus haut. Puis ça débarre, je pense, toutes les énergies du personnage, si tu as pas tout ramassé. Puis tu peux recommencer le même jeu, c'est tout.
Le même environnement.
Le même environnement.
Puis tout le monde joue le même environnement?
Tout le monde joue le même environnement. C'est un jeu qui est super court, super simple, mais il y a une raison derrière ça. C'est que c'est pas un jeu qui a été développé dans l'optique d'être sorti au public. Ça a été développé, ce jeu est développé par Ubisoft Reflections, qui est un sous-studio de Ubisoft, si on veut.
Qui développait les drivers, il me semble.
C'est ça, mais c'est un jeu qui a été développé pour un release interne chez Ubisoft. C'était juste destiné pour les employés d'Ubisoft, comme démo de Unity ou comme proof of concept de ce que Ubisoft peut faire en Unity, peut-être. Sauf que quand le management chez Ubisoft ont mis la main sur ça puis l'ont essayé, en fait, hey, on a vraiment quelque chose d'intéressant, ça peut intéresser d'autres gens. Ils l'ont sorti sur PC et là sur PS4, puis ils ont annoncé que s'ils faisaient assez de ventes sur PC, ils allaient le porter sur iOS aussi. Ce qu'on sait qui est assez facile avec Unity de porter sur plusieurs plateformes.
Ça
de
coûte
façon,
combien là, cette histoire-là, quand il n'est pas gratis sur Play 4?
Il doit pas être très cher, j'ai pas regardé. Je sais pas, Danny, si tu veux regarder trop l'information, peut-être. Fait, c'est un jeu très très court parce que ça a été développé comme plutôt une proof of concept justement de design qu'il pouvait faire. Qui s'est finalement retrouvé au grand public parce que il y avait quelque chose d'intéressant. Ce que je trouve bien de Grow Home, venant d'Ubisoft entre autres, je trouve que c'est un petit peu un retour à un peu les jeux qu'ils faisaient avant un petit peu plus. Là, ça fait longtemps qu'Ubisoft sont dans un mood un peu plus sérieux peut-être, avec les Assassin's Creed, avec les Far Cry, ces choses-là. Puis de retourner sur le bon look à la Rayman, puis les jeux un peu plus... un peu plus cute, un petit peu plus goofy ou cartoony ou tu sais, ou moins sérieux peut-être,
puis juste pas un triple A là.
Juste pas un triple A, c'est ça. Puis ça, je trouve que c'est pour ça, ça devient, c'est rafraîchissant là.
Donc sur Steam, pas en spécial, 10 canadiens.
Oh shit.
Bah ben, c'est ça, c'est pas très très dispendieux.
Je m'attendais à 5.
Pas surtout avec le temps que tu as l'air de dire que ça prend là.
Ben personnellement, j'ai pas terminé, j'ai pas monté les 2000 mètres. Je me suis rendu à la un peu plus loin que je sais pas, aux deux tiers, je sais pas, à peu près à la moitié, mettons, là. Puis j'ai joué trois quarts d'heure, une heure. T'sais, mettons là, qu'il y a un trois heures de jeu.
Ouais, c'est pas, cinq,
Ben, surtout quand tu te dis que c'était même pas supposé être réalisé, il me semble que c'est avare un petit peu de mettre la facture si haute que peut-être. Ça.
Ben, ça fait un peu gros studio. Je sais, quasiment en chien de dire ça, mais...
Ouais. Tu sais, Christy, ils ont vendu, c'était quoi? C'était 20$ pour Child of Light puis Valiant Hearts, parlant d'Ubisoft. Deux jeux sublime, c'était 20$, tu sais.
Mais on est quand même loin du fini de Child of Light puis ces choses-là.
Ah ben c'est ça, tu sais.
Ça feel comme un, ça feel comme ce que c'est finalement. Là. Ça feel comme un jeu qui était fait pour l'interne puis finalement on va le donner à tout le monde.
Ben, d'où le fait qu'il aurait dû le vendre pas moins cher.
Peut-être. Reste que je suis quand même super content qu'il était gratuit sur PS4. Je suis super content d'avoir joué. Je vais le finir. Je l'ai pas fini, mais c'est sûr que je vais le finir parce que c'est quand même le fun. Là. Puis c'est drôle de jouer. Puis c'est drôle de. C'est rafraîchissant, littéralement, de jouer à ça. Ça fait changement de tous les shooters. Comme j'ai dit, j'ai passé la plupart de ma semaine à jouer à Destiny. Là, on est loin de ça. Là. Aucune progression, rien de compliqué, pas de quest.
Vous l'entendez pas, là, mais il y avait comme des guillemets dans les airs qui flottaient là, à jouer à Destiny.
Jouer à Destiny. Arrête, c'est cool, Destiny.
Continue à le dire, tu vas te convaincre.
On regardera ça pour une autre discussion. Mais non, pour vrai, c'est super intéressant. Mais malgré que ce soit super original, super rafraîchissant, difficulté des contrôles, comme tu sais, puis souvent les contrôles mènent à l'erreur, mènent à devoir recommencer, mènent à l'échec en fait. Puis c'est pas un échec parce que tu t'es trompé, c'est un échec carrément parce que le jeu est pas tight. Puis c'est difficile de faire ce que tu veux.
C'est la pire affaire qui peut t'échouer. Ça.
C'est ça. Fait à cause de ça, mais je vais me limiter à deux pattes de divan pour Grow Home.
Et mets-tu comme du même bord ou en diagonale?
Genre, ben assis, ça peut tenir, mais.
Ben, moi, je mettrais en avant, comme ça, t'es bien canté dans le divan.
Relax, ben relax. Jouons la losse.
Tu peux. Pas Grow Home, il est gratuit de toute façon. Fait qu'écoute-toi dans le fond du divan.
Tu payes PlayStation Plus, là. Prends ce chill.
C'est
là.
Ça. Pour le temps que ça dure, de toute façon. Nice. Quand même super amusant. Puis peut-être plus pour une audience plus jeune, peut-être que c'est.
Ouais, je sais pas si ça va vraiment leur rendre service des contrôles moins.
Non, mais il y a peut-être plus de patience des fois, par exemple.
Non, peut-être.
Ça reste un jeu qui est totalement non-violent.
Visuellement, moi je trouve ça beau le look que ça donne, même si on comprend que c'est un look un peu comme ça parce que le but c'était pas d'en faire un développement de fou, mais ça donne un look le fun, je trouve qu'il est beau. Puis, tu sais, s'il avait été 5$ sur Steam, j'aurais vraiment cliqué buy direct là parce que ça a l'air le fun.
Mmh. Oh, ça a été développé par une équipe de 8 personnes là. En très, très, très peu de temps. Là. Fait que. Mais c'est quand même ben, super louable.
Mais c'est une des forces de Unity, là. La capacité de développer excessivement rapidement parce que les gros morceaux sont déjà tout en place. Puis, c'est pour ça, justement, que ça me donne l'impression que ça n'a pas dû être long pour une team chez Ubisoft de gars qui savent où ce qu'ils s'en vont de faire quelque chose comme ça. Ouais, je la trouve salée à 10$. Je sais pas, j'ai pas joué, mais avec ce que tu me dis, ce que je vois, ouais, je trouverais cher. À 10$, je le jetterais pas, là.
C'est pour ça qu'il est gratuit sur PlayStation, pour ça, moi aussi.
Voilà. Hey. Merci, Sony. Hein?
Donc, Star Realms.
Oh, on change de musique.
On change de musique, on change de jeu, on change de style. Et on s'éloigne de la télévision pour aller. On va se lever de notre divan, ou on va approcher la table au divan, en fait. Pour Star Realms, qui est en fait un deck building game, donc c'est un jeu de cartes que j'ai découvert grâce à Martin, en fait, qui est Danny, un de nos amis.
Un de nos amis communs, oui.
Un de nos amis de longue date.
On n'est pas confondre avec Annie de Lombat. Vous avez un petit drop de PS. Oh.
Annie de Lombat.
Peut continuer.
Que Matt, tu connais aussi, mais depuis moins longtemps.
Un ami de petit bain. Oh, elle était facile. Ok, on continue.
Nous autres, on a du contenu.
on a un tag explicite en temps.
Bon, Deck Building Game, c'est un jeu qui a été kickstarté en 2013. Donc, c'est un succès Kickstarter de 2013 que Martin m'a fait découvrir cette semaine. Il est en retard, les nouvelles.
Avec son backlog de game.
Ouais, mais c'est ça. C'est un jeu qui s'inscrit dans la lignée, dans la philosophie de Magic, The Gathering ou Ascension, en fait. Pour ceux qui savent pas c'est quoi Ascension, c'est en grosso modo Magic, mais dans une boîte que t'as pas besoin de lâcher. C'est tout fait, les cartes sont là, tu bâtis ton deck avec ça, puis tu joues. Fait qu'on a la même histoire ici où les deux joueurs jouent avec les mêmes cartes. Il est aussi disponible, il est sur PC, il est aussi disponible sur Android, iOS, puis toutes les plateformes possibles. Donc on peut jouer sur votre téléphone si ça vous intéresse. C'est essentiellement le même jeu. Donc c'est un jeu qui est super facile d'accès, qui est super facile à apprendre. Ça m'a pris, je pense, j'avais pas besoin de lire les règles. J'avais Martin qui a pu m'expliquer les règles, mais en maximum 2 minutes, je savais jouer puis je maîtrisais les mécaniques du jeu. C'est vraiment simple, c'est vraiment rapide. Et il y a quand même une profondeur parce que malgré que ce soit simple, une fois que je l'ai joué après une couple de parties, les mécaniques commencent à sortir, on commence à comprendre comment le jeu fonctionne.
Je pose une question.
Oui.
Tu as joué à Magic pendant plusieurs.
Oui, j'ai joué à Magic pendant plusieurs dizaines d'années.
Est-ce que quelqu'un qui n'a pas joué comprendrait aussi facilement?
Oui, ça l'a. Ça ressemble à Magic dans la façon que ça fonctionne, mais t'as.
Pas une complexité.
Non, oui. Si t'as besoin d'aucune connaissance de base ou quoi que ce soit. Enfin, la façon que ça fonctionne, c'est que chaque joueur commence avec 10 cartes. Puis ces 10 cartes-là, t'as. C'est finalement les cartes, c'est 8 scouts puis 2 vipers. Les scouts, c'est ce qui donne l'argent, si on veut, les crédits pour acheter des cartes, puis les vipers, c'est ce qui fait des dommages. T'as 100 partants, et la façon que ça fonctionne, c'est en jouant, à chaque tour, tu joues 5 cartes. Point final. Tu piges 5 cartes, tu joues 5 cartes. Fait que s'il n'y a pas de stratégie d'ordre dans laquelle tu les joues, puis tout se fait en même temps. Donc, tu piges ta main, tu mets toutes les cartes sur la table, tu accumules les dommages, puis tu accumules les ressources. Avec les dommages, c'est pas des dégâts, en fait tu diminues l'autorité de ton opposant, fait qu'il perd le contrôle sur son secteur de la galaxie, si on veut, son sien dans le lore là, du jeu. Puis avec les ressources, tu peux acheter les cartes qui sont sur la table. À tous les tours, on met 5 cartes au milieu de la table. C'est les cartes que tu peux acheter avec tes ressources. Il y en a que tu ne pourras pas acheter, il y en a qui demandent 8, 9 ressources, il y en a qui demandent 2, 3, il y en a qui demandent 1, fait que tu peux piger dans ça. La façon que ça fonctionne, il y a une mécanique qui s'appelle Scrap, où tu as des cartes que tu la scrapes, ça fait un effet. Par exemple, ça fait des dommages de plus ou ça donne des ressources de plus. Puis cette carte-là, tu la retournes pas dans ton deck, elle s'en va dans une genre de discard pile. Parce que ce qui est super intéressant, c'est que ton deck de 10 cartes que tu commences au début, rapidement après quelques tours, il n'y a plus rien à voir avec ce que tu as commencé au début. Fait que tu choisis les cartes que tu veux mettre dedans en les achetant. Ce que tu veux pas, tu les scrapes, tu t'en débarrasses. Puis tu finis par te créer un deck en essayant d'atteindre une synergie dans ça pour réduire à zéro l'autorité de ton opposant. En
fait. Je viens de remarquer à quel point ça ressemblait à Dominion aussi.
J'ai pas joué à la mignonne.
Non, ok, ben c'est. T'as dit deck building game, mais c'est une famille connue sous le nom de deck drafting game. Okay, ouais. Tu bâtis pas ton deck avant de jouer.
Tu recrutes. Ok, tu joues pendant, ouais, effectivement.
C'est ça. C'est bon. C'est juste pour ceux qui pourraient connaître Dominion.
Deck drafting. Mes excuses. Donc, en fait, le jeu se déroule comme ça. T'achètes les cartes, puis tu construis ton deck. Il y a 4 factions. C'est la Trade Federation, The Blobs, le Star Empire puis le Machine Cult. Puis chaque faction a des mécaniques différentes et t'es pas limité à une là. Tu peux acheter des cartes des 4 factions. Des fois tu vas acheter une carte juste parce que tu veux pas que ton opposant l'aille. Puis tu la scrapes plus tard dans sa face juste parce que
faire un statement.
Et finalement ça devient à te trouver une synergie ou te trouver une façon de jouer à travers tes cartes pour jouer contre l'autre, puis diminuer son autorité à zéro. C'est super intéressant. La mécanique est là, c'est super simple. En 2 minutes, on peut apprendre le jeu, on peut apprendre à jouer. Honnêtement, je pense qu'on a joué une partie durant environ là, 15 minutes, 20 minutes maximum. Ah. C'est quand même super rapide.
Ça, j'aime ça.
On a joué, je pense, pendant 2h30. Fait qu'on a fait beaucoup de parties. et à chaque fois qu'on jouait, le jeu changeait, parce que là, tu passes à une stratégie différente, ou tu vas acheter des factions différentes, ou l'autre il va adapter, tu sais, il voit qu'est-ce qu'achète les cartes, quand tu finis par apprendre comment l'autre joue, tu essaies de prévoir ce qu'il va faire. C'est super intéressant, enfin, c'est toute la logique où plus tu achètes de cartes, plus ton deck a de cartes dedans, enfin, si tu scrapes pas, tu vas moins les piger. Fait d'avoir un petit deck, ça devient rapidement intéressant parce que tu joues tout le temps les mêmes cartes. Ça fait partie des mécaniques de chacune des factions. Bon petit jeu qui est pas très cher, ça non plus, j'ai pas regardé le prix, mais c'est très très abordable. C'est quand je le joue, ça vient avec une belle petite boîte de transport, toutes les cartes qui sont dedans pour jouer. Les artworks sont malades, sont super beaux.
Ce qui est le fun, on va te le dire, là, tu joues un jeu, t'as des cartes en face.
Ben oui.
C'est le fun quand ils sont belles.
Ça donne un petit feel à un jeu qui est juste des cartes.
Exactement. Puis là, c'est chaque faction vraiment, tu sais, c'est couleurs, c'est thèmes distinctifs. Il y a deux types de vaisseaux, il y a les ships, il y a les bases, puis. Oui, Danny?
Non, je vais répondre, c'est correct. Je vais répondre à la question, c'est combien. Donc, Amazon.ca, Star Realms, 25$, free shipping, puis. Ils disent que c'est un deck building game, ça a boire.
Ah ouais, excusez-moi.
On va les tuer. Ouais.
Non.
Donc, deck building slash drafting game.
Non, mais je pense qu'il y a
des gens qui que c'est un bon prix. C'est
très bon prix. Mais je sais qu'il y avait aussi le jeu de Resident Evil, je pense, qui marche de la même façon, puis qui l'appelle deck building. Ouais. Fait que le terme a peut-être changé, puis je suis des patates, là. Mais moi, je les ai connus sous le nom de deck drafting, ces jeux-là. Excusez-moi.
Deck building, deck drafting, choisissez.
Moi, je vois mes jeux rétro sur une télé plasma, fait que tu sais.
Ce qui est super intéressant de Star Realms, c'est qu'en plus d'être disponible en card game, puis qu'on peut jouer face à face, il est aussi disponible en version PC game ou mobile sur toutes les plateformes mobiles. Il y a une mécanique de jeu solo, ce qui est super intéressant, puis qu'il n'y a pas dans tous les jeux comme ça, où il y a une carte qui est spéciale, qui représente des pirates, puis l'autre, c'est comme une entité spatiale quelconque, qui a ses propres règles à elle, et tu joues contre cette carte-là. Fait que toi, tu fais ton tour, après ça, la carte va générer un tour, puis après ça, tu joues ton tour. Je ne l'ai pas fait, mais si je m'en base sur l'expérience de Martin, avec qui que j'ai questionné sur le sujet, il paraît que c'est extrêmement difficile. C'est 2 niveaux de difficulté, vraiment dur, puis incroyablement dur.
Mais on connaît le syndrome des jeux coop ou solo, là.
C'est ça. Mais le problème, c'est qu'une fois que t'as brisé le mystère ou t'as trouvé la clé du puzzle,
C'est ça.
Tu dois pouvoir toujours y arriver.
C'est toujours difficile au départ parce qu'il faut que ça le tienne occupé un certain temps.
C'est ça, exactement. Je sais que la version PC, si je me trompe pas, on peut jouer gratuitement. Mais c'est seulement la version solo qui est gratuite. Pour jouer en ligne ou pour jouer contre d'autres joueurs, il faut acheter le jeu à ce moment-là en ligne, ce qui permet de développer toutes les autres fonctions.
Ouais, là, je suis sur le site, j'ai pas tout lu les trucs, mais c'est marqué là, free to download, puis là, je sais pas exactement ce que ça inclut. C'est marqué purchase core game, puis qui est genre 5$, en tout cas, tu sais, fait que probablement que.
Ouais. Il y a des expansions, je sais qu'il y a une série d'expansions qui a sorti depuis, qu'on n'avait pas la chance d'avoir, qu'on n'a pas pu les tester, par exemple. Mais Star Realms, qui au final, je vais donner 4 pattes de divan.
Oh.
Beaucoup de plaisir dans ce temps-là. Puis c'est. Tu sais, on a joué énormément de parties. On s'entend 15 minutes de la partie. On a joué pendant un bon 2h30. Et je m'en suis pas tanné.
Je
ferai un autre 2h30 encore de Star Realms.
Ça, c'est le meilleur compliment que tu peux faire à un jeu de société.
On voit que Jeff laisse les Ouya à Rétro Nouveau qui ont fait encore une joke de Ouya cette semaine.
Vrai?
Fait que, c'est pour ça qu'on n'a plus.
les inventaires sont finis.
Et voilà. Pourtant, je pensais qu'il y en aurait plein les armoires rustiques dans un Best Buy ou quelque chose.
Un Best Buy.
Enfin, si tu trouves une autre console, elle m'attend-tu notre divan?
Ils ont laissé chez Future Shop quand ils ont fermé. Puis...
ils ont sacré la clé dans la porte. Ouais, ils ont, en fait, ils ont tacoté dans la porte pour pas que le monde puisse se défoncer. Merci, Ouya, d'être là. Donc, c'était ça pour toi aujourd'hui?
C'était ça pour moi aujourd'hui. C'était pour moi cette semaine, en fait. Ouais. Fait que. Ben, Danny?
Ben, non, c'est même pas c'est Danny. Pas Danny c'est à moi. C'est de suivre. C'est tout écrit, là. C'est tout écrit. On dirait qu'on est préparé.
Ah, ben, tu sais, moi, puis l'écriture aujourd'hui.
C'était écœurant d'essayer de voir JF écrire sur notre groupe de notre chat de groupe aujourd'hui.
J'appellerais pas ça écrire. Ça qualifie très peu comme de l'écriture. C'est plus comme de l'art contemporain abstrait.
En fin de semaine, à la soirée est encore jeune pour s'il y a des fans, ils ont droppé une joke de ministre à l'alphabet qui est correct parce que 50% de la population qui l'est, fait que JF aujourd'hui se qualifiait.
Il représente bien ce
je me présente pour la prochaine section.
Ah, il fait pas de joke avec ça, c'est pas drôle. Mais bon, je vais y aller, c'est à moi.
Ben oui, c'est
pas
à Dan,
on l'a dit. Vas-y. Okay. Moi, je vais vous parler. Ce sera pas une review cette semaine, ok? Parce que c'est pas fair d'appeler ça une review. C'est un jeu que je connais beaucoup trop. J'ai une nostalgie infinie pour ce jeu-là. J'ai joué à ça la première fois, je devais avoir 10 ans. Mais c'est un jeu que j'entends jamais parler, qui est méconnu, à mon avis. Puis je veux partager ça avec vous autres parce que c'est ça, moi j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant comme jeu. Puis je le compare à des jeux qui sortent aujourd'hui, puis ils se comparent favorablement de beaucoup de façons. Et je parle de Quest for Glory. Dans le cas actuel, je parlais de la version EGA, qui est la version originale qui est sortie en 1989. C'est publié par Sierra Online. Clairement, à cette époque-là, ça voulait dire autre chose online, je pense, parce que...
J'imagine!
On était un petit peu à côté.
Je pense qu'il voulait dire qu'il y avait le courant.
Non, le pire, c'est je pense que c'est parce qu'il vendait par courriel ou une connerie de même quand ça en startait. Ou... Il y avait peut-être un BBS, tu sais, un vieux forum. Là. Par Sierra Online, qu'on connaît surtout pour avoir tout lancé les jeux d'aventure. Là. Tous les jeux d'aventure, ben, les ancêtres des point and click viennent de Sierra. Ils ont inventé, calé, ce genre de jeu-là sur PC avec la série King's Quest. Puis ce jeu-là, justement, à l'origine, devait se greffer dans cette série-là des quelque chose Quest, où ce qu'on retrouvait avant celui-là, King's Quest, évidemment, Police Quest, Space Quest.
Divan Quest, pas là-dedans. Hein?
Mais non, calé, que j'avais pas pensé. Mais non, malheureusement, non, on n'est pas backé
dans Sierra. Ça va être un spin-off game, ça va être...
calé, que ce serait bon, ça.
Ça Sierra Online.
Prends des notes.
Sierra Online.
Le nom existe encore. Ça a été racheté par Activision.
Ah ouais?
Puis on peut oublier quelques...
Est-ce quelque chose qu'ils ont pas acheté, eux autres?
Non. Non, okay. Tout simplement. Donc, ils ont publié, si je me trompe pas, le dernier Geometry Wars est publié sous le nom de Sierra par Activision, où c'était ça le projet, mais bref, ils l'utilisent un peu comme un label indie chez Activision présentement. Mais c'est ça, ça devait être Heroes Quest pour s'inscrire dans ce... Coudonc, je me sens comme Jeff, pour s'inscrire dans ce linéage-là. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un litige avec Milton Bradley qui publie le jeu de société HeroQuest,
oui.
Qui est un de mes jeux favoris.
Ouais, lui est peut-être plus en lien avec notre nom quand même.
Ah, un petit peu. Un peu responsable d'où est-ce qu'on en est. Mais c'est ça, quand le litige est arrivé, ben, ils ont renommé. Mais le jeu a quand même été publié sous le nom d'Heroes Quest au départ. Fait qu'il est trouvable sous le nom d'Heroes Quest. Et ensuite, sous le nom de Quest for Glory. Et les jeux suivants ont gardé le nom, bien sûr, Quest for Glory. ce jeu-là, pour bien comprendre ce qu'il représente, c'est sorti 89, donc en plein milieu de ce moment-là où ce que les RPG sur PC est en train de se définir. Il y a beau avoir Ultima qui a survécu, Might and Magic sous une certaine forme, mais il y a tellement de RPG complètement cinglés sur PC à cette époque-là. NetHack, dans les, ben, tous les concepts des roguelikes, il y en avait beaucoup dans ce temps-là. Il y avait des jeux comme Darklands qui sont des jeux injouables, complètement pleins d'éléments abstraits, puis qui essaient de reproduire une Allemagne réaliste du Moyen-Âge. C'est plein de concepts vraiment fucked up. On a eu Dungeon Master qui est plus connu. Planet's Edge, que je prendrais même pas le temps de parler, ça n'a aucun sens à expliquer. Puis HeroQuest, même le HeroQuest, le board game, a eu une adaptation PC au début des années 90. Ben,
ça,
oui.
Ça, je savais pas ça.
Donc, il y avait tellement de choses qui se passaient, ce qui fait qu'on voyait plein de jeux vraiment intéressants. Puis c'est pour ça que c'est pas surprenant d'avoir vu Sierra arriver avec ça. Mais de les voir arriver d'un point de vue de concepteur de jeux d'aventure, ça a fait de quoi être super intéressant. Ça a fait un hybride de jeux d'aventure et de RPG. Parce qu'il prend vraiment autant de un que de l'autre. Pour partir du début, l'histoire, c'est excessivement simple. T'es un aventurier qui veut devenir un héros. Puis t'as été formé, pour voir tout le sérieux de l'histoire, là, t'as été formé par l'Académie d'aventuriers par correspondance.
Par correspondance.
Ouais, et t'as
online.
Vu
une... Online.
Exact. Ah, c'est ça. Okay. Et t'as vu une annonce pour un royaume qui cherche un héros, puis t'as décidé d'y aller.
Sur Kijiji, ça, ou Craigslist?
Ça devait être dans le feuillet de correspondance que tu reçois tous les mois parce que t'es abonné.
Sur GeoCities.
Non, 80.
Même ça, c'est trop récent.
Ouais,
c'est
ah, well, je
ah, ben, Willy Bolton Board, ça arrête là-là.
Caramel.
89, t'avais 5 ans. Lénard, là.
C'est ça l'histoire, that's it, okay? Y a rien d'autre à ça.
C'est rien drôle, j'aime ça.
Et le monde du jeu, une fois que t'es rendu là, est très 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 délibérément basé sur les contes allemands.
Le village s'appelle Spielberg.
Le village s'appelle Spielberg, mais pour avoir de quoi, t'sais, le bourg, là.
Ouais. Bon.
Tout simplement, tout est inspiré des contes allemands, mais t'sais, t'as une sorcière qui s'appelle Baba Yaga. Y a une grosse grosse place qui est donnée à la rime, dans les dialogues et dans la magie à un certain degré. Donc, il y a vraiment un souci de prendre ce matériel-là comme source. Il y a une raison à tout ça, d'ailleurs.
Mais c'est je fais une parenthèse, je trouve ça quand même très beau pour les 16 couleurs qu'il y avait, là. Mais mm-hmm. C'est quand même... Tu sais, c'est cool, là, c'est défini. C'est,
Ben, c'est vers... j'expliquerai un petit peu les moteurs de Sierra.
Excuse-moi, pour t'aider à te situer.
Ben non, il n'y a pas de mal. C'est ça, c'est très délibérément allemand, ce qui fait que ça a un look médiéval fantastique très typique. Puis c'était probablement la bonne façon, d'ailleurs, de starter cette série-là. D'avoir quelque chose de connu, d'être en territoire plus connu en étant médiéval fantastique. Puis justement, comme tu relevais, c'est un jeu qui, pour l'époque, est très très beau. Pour ceux qui seraient plus familiers avec les jeux de Sierra, si on parle du premier King Quest, il était monté sur un moteur qui s'appelle le AGI, le Adventure Game Interpreter, qui a été remplacé justement en 89 ou peut-être en 88 par le SCI-0, le Sierra Creative Interpreter, qui lui a permis de faire beaucoup plus de choses. Et vraiment pas longtemps après, il y a eu le SCI-1 qui lui utilisait la palette 256 couleurs et qui a abandonné les boîtes de texte pour faire tes actions. Moi, j'ai toujours adoré les jeux qui te demandaient d'écrire. Puis c'est une des raisons pourquoi j'adore ce jeu-là.
Contrairement au lieu de juste choisir tes actions dans une liste, là.
C'est ça, juste d'avoir une série d'icônes comme Lucasfilm Games ont introduit pendant le règne de Sierra. Là, t'es obligé de savoir ce que tu veux faire.
Mais je trouve ça le fun parce que, tu vois, moi, j'ai jamais joué à ces jeux-là. J'ai eu un PC, j'étais en secondaire 4. Avant ça, j'avais pas ça, tu sais, fait que j'ai pas pu toucher à ça. Mais j'aime ça, là. C'est comme vraiment le successeur direct des text-based, là, des genre Zorg et ainsi de suite. Mm-hmm. Puis, mais avec du visuel, fait que ça devient comme.
Mais c'est directement comme ça que c'est né, ces jeux-là.
Ça me donne le goût de jouer à ça, là.
Le premier jeu de Sierra était un jeu. Le premier jeu a utilisé du texte et des graphiques pour PC. Mais c'était que des images statiques. Mais c'était déjà un gros pas en avant. Puis c'est avec ça qu'ils ont gagné comme le momentum pour devenir le Sierra, le roi des jeux d'aventure qu'on a connu. Mais ce qui est spécial dans le fond du SCI-0, c'est qu'on a une fidélité visuelle qui est assez élevée et qu'on est quand même obligé d'écrire notre texte pour les actions. Contrairement au moteur précédent, le jeu pause quand on écrit. Tandis que les premiers King Quest, Space Quest, etc., ben, tout se passe en temps réel. Fait que des fois, tu prépares tes phrases, t'attends juste de peser Enter pour pas te faire surprendre par le jeu. Puis justement, par rapport au fait qu'il y a le moteur suivant, le SCI-1, il y a eu une version de ce jeu-là refaite pour le SCI-1, donc en 256 couleurs, et que t'as pas besoin de taper. Pour ceux qui trouveraient ça un petit peu difficile d'être obligé de tout trouver tes puzzles dans les tapins. Moi, je trouve que c'est ce qui est intéressant. Mais il est habituellement considéré comme la version vastement supérieure de ce jeu-là. L'intérêt, justement, de prendre ce moteur de jeu d'aventure-là pour commencer, ça fait que ce jeu-là est designé, a priori, de base, comme un jeu d'aventure. On a une série de puzzles, de, appelons-les de quêtes, considérant le contexte, mais il faut qu'on résoudre les puzzles par les moyens qui nous sont offerts, les objets qu'on trouve, etc. Comme on est tout habitué des jeux point and click, soit des grosses années de LucasArts ou du retour là, avec Telltale Games, bon, malgré qu'ils focus un peu plus sur les interactions, mais tout ce genre de jeu-là, un jeu d'aventure point and click, mais remplace le point and click par du texte, donc que tu dois décrire ce que tu veux faire. Ça enlève beaucoup du guesswork, il faut que tu comprennes ce que tu es en train de faire, tu peux pas juste cliquer n'importe où dans l'écran. Puis je trouve que ça rapprochait justement un peu plus du RPG sur papier d'avoir cette limitation-là.
Puis les déplacements dans le monde se font avec la souris ou...
Tu peux le faire avec la souris dans le cas de HeroQuest, tu peux cliquer où tu veux aller, mais tu peux te déplacer avec les flèches, qui est la méthode normale pour ces séries de jeux-là. Mais ce qui fait que le jeu se démarque des autres jeux d'aventure, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments d'RPG. Premièrement, tu choisis une de trois classes en commençant le jeu. Guerrier, mage, voleur. On s'en tient assez carré de ce côté-là.
Les classiques.
C'est spécial, on dirait que c'est pas des classes fréquentes.
On les entend jamais, eux autres. Puis, une fois que tu as choisi ta classe, tu vas assigner un nombre de points dans tes caractéristiques. Et tu as des skills aussi par rapport à tes caractéristiques. Ce qui te permet de créer des classes un peu hybrides. Tu peux acheter un skill d'une autre classe, mais juste à la création du personnage, c'est extrêmement dispendieux. Donc, c'est souvent intéressant quand t'as déjà joué au jeu puis que tu veux te donner des options additionnelles. Mais sinon, les jeux sont quand même designés pour pouvoir être... Le jeu est designé pour pouvoir être battu, peu importe la classe que t'as choisie, évidemment. Bon, t'as les stats qui changent, puis ce qui fait aussi que ça rapproche beaucoup, je trouve, d'un... ça s'approche plus du jeu d'aventure que du RPG, c'est que tes stats vont seulement évoluer quand tu les utilises. Mais pas comme, ah, t'as gagné ton level, tu mets des points dedans. Non, 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 mais va te battre, là. Puis si t'as dodgé pendant la bataille, ben tu vas gagner du dodge. Si t'as été aider un fermier, tu vas gagner de la stamina puis de la force physique, parce que tu voulais aller te faire une job-in, te faire du cash. Ben, tu vas devenir plus résilient et tu vas devenir plus fort physiquement. Donc, toutes tes actions que tu utilises en tout moment dans le jeu vont se rapporter dans tes stats. C'est pas artificiel comme progression.
Puis, comment ça fonctionne le combat?
On va y arriver. On va y arriver. Okay. Il y a. Ben, justement, calique, je t'ai rendu là.
Ben oui.
Calique. C'était quasiment un segway finalement. Eh oui, je l'ai encore calé. Le système de combat est en temps réel. Tu vois ton personnage de dos. C'est toujours 1 à 1 vis-à-vis des ennemis. Tes voix arrivent du haut de l'écran. Tu peux dodger, tu peux bloquer et tu peux attaquer. Le tout est en temps réel. Honnêtement, c'est un peu clunky comme
ça. Tu fais tout ça en écrivant dodge.
Non, 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 tu utilises flèche du haut pour attaquer, flèche du bas pour bloquer, puis flèche de droite pour dodger.
Ok.
Donc ça se fait vraiment au niveau des flèches que tu utilises. Mais pendant le combat, tu peux. Si t'es un mage, tu peux call in dans tes spells. Fait que là, tu commences à écrire, ça pause, t'écris ton spell. T'écris le spell que tu castes, le nom de ton spell, puis ça va le faire. Tu peux te sauver pendant le combat, ça se fait tout justement via les fonctions texte. C'est très, très. Honnêtement, là, c'est. Ils ont tordu le moteur du jeu à faire un système de combat. C'est cool. C'est hyper engageant comme système de combat, même si c'est pas mal plus un résultat de tes stats que ce qui se passe dans le jeu. Mais ça rajoute beaucoup au fait que c'est un RPG. T'as aussi un côté où est-ce que t'as et ta vie et ta stamina que tu dois gérer dans le cours du jeu. Puis à l'intérieur d'une journée, parce que le jeu a un cycle de jour et de nuit, il y a même un cycle de saison. Ouais, ce qui est vraiment impressionnant pour un petit jeu d'aventure 89. Tu dois justement gérer ta stamina parce que quand tu fais des actions qui sont demandantes, tu essayes de grimper, tu lances quelque chose, tu vas travailler pour le fermier, tu t'entraînes à l'épée, tout ça bouffe de la stamina, ce qui fait que tu vas être beaucoup moins bon pour te battre, puis tu pourras juste pas faire certaines actions. Mettons, t'es tellement pourri en lancer, puis t'essayes de pitcher une roche sur un nid pour qu'il tombe. Si tu le fais 150 fois, ben maintenant ton bombe va être juste brûlé. Puis tu pourras plus le faire. Ton skill de lancer va avoir augmenté, mais tu vas brûler ta stamina. Ça se passe semi en temps réel. Le temps se passe dans tes actions normales. Si ta main, il va quand même se passer, puis tu peux te reposer quand t'es épuisé, qui va faire un petit peu avancer le temps aussi. Puis comme tout jeu qui a un cycle des jours et des nuits, ben évidemment, il y a des choses différentes selon les moments de la journée. Surtout la nuit, honnêtement, où est-ce que la ville va être fermée. Puis il y a des monstres spéciaux qui sortent, qui sont vraiment violents. Puis il y a les brigands dans les ruelles, puis des trucs comme ça. le monde, justement, par rapport au, à la jour et à la nuit et tout l'environnement des saisons, est très, très bien réalisé. La map est vraiment pas très grande, ce qui est d'une qualité, honnêtement, parce que tu te promènes pas à te perdre pendant des heures. Ce qui est fatigant un peu, par contre, c'est que dans les sections de forêt où il n'y a rien, il y a souvent des vues, des écrans qui se répètent. Mais c'est tellement petit que tu te dis, bon, ben c'est... OK, telle personne est 3 écrans par la gauche puis un écran par en haut. J'arrive à tel endroit. Ça fait que c'est facile de se faire une carte. Puis on est aussi bien d'en faire une, honnêtement.
Puis est-ce que tu repasses souvent dans les mêmes... T'sais, si la map est pas grande, est-ce que tu reviens régulièrement dans les mêmes environnements?
Énormément. Ben oui, parce que c'est un jeu d'aventure. Fait que c'est beaucoup les interactions avec les personnages. Tu vas beaucoup interroger les gens, interagir avec les marchands. Donc tu reviens toujours un peu aux mêmes endroits. Puis faut que tu dormes la nuit. Donc t'as intérêt à avoir aller à l'auberge ou d'autres endroits où tu peux dormir. Donc tu réagis beaucoup, beaucoup. Puis t'es tout le temps dans les mêmes environnements. Là. Comme typiquement les jeux d'aventure. Là. Comme j'ai mentionné un petit peu tantôt, ben, y a un humour au jeu qui est très, très, très Sierra. Tous les jeux de ces années-là étaient hyper drôles. Ça me fait penser à Terry Pratchett, le Disque Monde, Discworld, la série de livres, que c'est du médiéval fantastique, mais avec un humour un peu moderne, avec beaucoup de références dans les dialogues qui apparaissent à l'écran. Ce sont pas au-delà d'une petite référence à Star Wars. T'arrives dans une clairière parce qu'il y a plein de gobelins, puis il fait un commentaire au fait que he has an even worse feeling about this place. Bon, il se gêne. Des fois, il y a même des descriptions qui sont carrément modernes. Tu sais, c'est pas fait pour t'immerser, cette description-là. C'est fait pour te parler. Ce qui rajoute beaucoup à l'humour. Puis tous les personnages dans le monde, encore une caractéristique de Sierra, mais sont tous pleinement réalisés. Ils sont tous vraiment, vraiment distincts, tous intéressants. Ça file comme un cartoon un petit peu à quel point chaque personnage est caricatural puis est intéressant. En passant aussi au niveau du cycle des saisons, l'hiver, il y a des spots de glace. Fait que quand tu essaies de te sauver en courant, tu patines. C'est à peu près, à mon souvenir, c'est la seule distinction vraiment des saisons à part le look, mais tu patines dans la neige. Puis c'est vraiment chiant quand tu essaies de te pousser d'un gros cheetor, oui, qui est un cheetah centaur, qui te sac une volée le trois quarts du jeu quand t'es pas assez fort. Bref, ça devient un challenge l'hiver. Et en lien forcément avec le fait qu'il y a 3 classes dans le jeu, les solutions des puzzles pour un jeu d'aventure, c'est écœurant comment ils ont des possibilités pour être résous. Tu peux toujours approcher, ben, pas tous les puzzles sont différents, mais il y a beaucoup, beaucoup de puzzles qui ont au moins 2 solutions différentes selon les skills que tu as. Puis il y en a même certains que tu en as 3 carrément, une par classe. À moins que tu sois fait une classe hybride, là, tu peux tricher un petit peu là-dessus. Mais ça fait que le jeu a beaucoup de rejouabilité parce que tu peux l'approcher tellement différemment selon la classe. Juste le système de combat, le guerrier va sauter head first dans la plupart des combats, il n'y a pas le choix. Ce qui fait que le guerrier est plus un jeu de stats pour beaucoup des puzzles, tandis que les autres n'ont pas le choix de les éviter parce qu'ils sont jamais assez forts pour péter le minotaure qu'on a plus loin dans le jeu, des trucs comme ça. Puis il y a même des fois où tu arrives dans certains environnements que tu n'avais aucune idée qu'il y avait autre chose là, mais quand tu l'approches avec une certaine classe, il y a tout un puzzle qui est là, où il y a même une zone du jeu au complet qui est inaccessible parce qu'un personnage te parlera pas parce que t'es pas un pratiquant des arts magiques. Ce qui fait que ça a énormément de rejouabilité.
Ouais, c'est intense pour tout, surtout pour un jeu de cette époque-là.
Mais ça donne une profondeur au monde incroyable.
Mais ça m'étonne tout le temps, toute fois qu'on parle de point and click game, d'adventure game de ces années-là, il y a tellement de profondeur dans ces jeux-là. Je trouve ça étonnant que. Je sais pas, c'est comme si c'était perdu, ce jeu-là. Ça
en même temps, il faut. Tu peux pas accrocher du monde avec. Ben oui, les graphiques quand même, quand tu penses à ce qu'ils faisaient avant, mais tu sais, c'est pas comme. Hey man, check, c'est tellement réaliste ce jeu. Non, faut.
C'est non, gameplay, mais c'est clair, faut que ce soit. Mais c'est quelque chose à dire sur les jeux modernes, en fait, où ils passent tellement de temps à investir dans des plus beaux graphiques, puis en quelque part, on perd dans le contenu. Là.
Faut lui qu'il parlait de Everybody's Gone to the Rapture, ça me passait.
C'était donc bien beau, puis il y avait rien à faire.
Mais non, mais je fais une blague, mais en même temps,
Il y a ce qu'on dit quand même.
Je suis d'accord, là, c'est la grosse discussion sur pourquoi le jeu rétro, tu sais, puis.
Ben, puis il y a un autre point que je vais vous apporter tantôt, je le garde, mais ça va vous faire penser à des jeux modernes. Puis vous allez vous dire calé que ça a donc bien pris du temps avant qu'on y revienne. On a des solutions variables, des endroits, des exemples en fait de solutions variables qu'on a dans le jeu. Le mage doit absolument tuer certaines créatures pour en récupérer des composantes, mais un guerrier qui tue un cheetor ou qui tue un. Il y a des espèces de petits dinosaures roses, quand t'es tué, ça sert absolument à rien. Tu le fouilles, parce que tu peux fouiller les cadavres. il n'y a jamais rien dessus, parce que c'est un animal, Garlic. Mais le mage en extrait des os, des crocs, pour faire des potions, pour avoir des spells. Donc, il y a une facette du jeu qui disparaît complètement pour le guerrier. Puis quand t'es le voleur, exemple, t'arrives à une certaine route qu'il y a un kobold, un sorcier, et le guerrier, tu rentres là, tu peux absolument rien faire. Tu rentres, puis tu vois qu'il est là, tu bouges d'un pas, il dit « Va-t'en ». Fait qu'il faut que t'ailles le combattre. C'est ta seule façon de résoudre ce puzzle-là. Le thief peut sneaker en rentrant, puis aller voler la clé pendant qu'il est en train de méditer. Puis le mage peut prendre un spell de téléportation, de lévitation, puis draguer la clé jusqu'à lui. Donc t'as vraiment comme toute la panoplie, mais tu pourrais arriver avec ton thief, puis barge in, puis aller le battre. Si tu t'étais monté assez ton skill de combat pour une raison ou une autre. Les portes restent ouvertes aux autres solutions.
Puis comme j'ai mentionné, quand même, c'est une belle diversité. C'est cool que j'ai une façon de résoudre un problème. Là.
C'est dans les jeux d'aventure, c'est relativement rare qu'on en ait autant. Mais par ces éléments d'RPG, ils sont comme forcés à faire ça. Ben, ça faisait partie d'un concept. Puis il y a une autre affaire que j'ai trouvé super le fun aussi. Quand tu joues le mage, comme je disais, il y a un sorcier mané que tu vas visiter. Puis quand il voit que tu es un magicien, il dit « Ah, je veux qu'on joue une game du labyrinthe des mages. » C'est comme une espèce de mini-game de puzzle que tu joues juste quand t'es le mage. C'est écœurant parce que si tu réussis à gagner, ça te donne un spell additionnel qui est assez performant, qui est pas nécessaire, mais qui rajoute tellement. Puis juste, même si ça t'avait rien donné, juste d'avoir accès à ça, ça te dit. Tu sais, tu peux dire à tes chums, t'as joué le fighter, hey, t'as tout manqué ça, là, quand tu vas voir le mage en haut, là, tu joues une game, puis tu dis, qu'est-ce que c'est ça? Ce qui fait que, comme vous pouvez voir, là, il y a tellement de choses dans ce jeu-là. Pour un univers qui est pas très grand, dans un moteur relativement rudimentaire, où tu te promènes, t'as un petit système de combat. Il se passe tellement de choses.
Oui, je pourrais quasiment jouer sur ma Pebble.
presque.
Ben, elle runnerait, là, il manquerait de texte.
Ce qui fait que, bref, je vais lui donner une note quand même, même si c'est pas une review. C'est un 3.5 sur 4.
On parle de combien de temps pour un playthrough,
mais c'est un jeu d'aventure, ce qui fait que si tu jammes dans un puzzle, tu peux jammer excessivement longtemps. C'est sûr, je te dirais, si tu t'y donnes, d'après moi, là, quand tu sais où tu t'en vas avec un personnage, c'est à peu près 5 heures. Si tu le sais pas, c'est 20 heures. Là. Parce qu'il faut que tu explores, tu découvres tout le monde, tu saches qu'il y a à faire. C'est 20-25 heures, moi, j'ai le goût de dire. Là. Pour me rappeler dans le temps que je l'ai jamais fini, quand j'ai fini par utiliser des playthroughs pour plus, des playthroughs, des walkthroughs plus tard, pour trouver les éléments qui me manquaient. Mais, Carlick, même si vous le faites avec un walkthrough, faites-le. Prenez le temps de l'explorer avant de toucher un walkthrough. Là. Puis quand vous faites comme, OK, je comprends plus rien, là tu le sors, puis tu fais ton bout. Mais c'est tellement un beau monde à jouer, tout à fait. Comme je disais tantôt, on a la version VGA qui est plus accessible. Le système de combat est beaucoup mieux dans la version VGA. La version VGA sort du plus récent moteur, donc 256 couleurs. La musique que vous entendez présentement, qui vient de la version VGA, donc beaucoup plus d'instruments, qui sont des cartes Sound Blaster qui n'existaient pas à l'époque.
Et, tu parles de cartes Sound Blaster, je suppose que...
C'est pas un jeu facile à jouer aujourd'hui, il faut que t'émules DOS ou quelque chose.
Ben, avec DOSBox. Ouais. Mais il est encore disponible à acheter, je crois, sur Good Old Games, je veux pas me tromper.
Oui.
Mais il y a un bundle qui se vend de toute la saga, toute l'anthologie, 1 à 5. Petite note d'ailleurs sur l'anthologie, ça avait été conçu au départ pour être 4 jeux, mais ils ont finalement été vers 5 parce que le personnage n'était pas rendu ce qu'il voulait avant le 3e jeu. Parce que il y a une fonction qui te permet de sauvegarder ton personnage sur une floppy disk et de le remettre dans le prochain jeu. Fait que tu gardes ton bonhomme, ses stats, sa progression d'un jeu à l'autre.
Il faut que tu émules un lecteur floppy ou faut t'en trouver un.
Tu dois être créer un floppy virtuel dans DOSBox.
J'imagine.
Mais je pense que dans l'anthologie, il y a des saves déjà dedans que tu peux réutiliser.
Mais l'anthologie Good Old Games, 10$ pour les 5.
Je m'en vais me l'acheter. Je sais pas d'autres. Je vais l'acheter après le pod.
On va faire une pause.
Mais t'emmènes ton personnage d'un jeu à l'autre avec toutes ses stats tel quel.
Puis quand tu crées un nouveau personnage, il part roughly au point de personnage.
C'est ça, il te rattrape.
Mais tu gardes vraiment tes stats tel quel. Ce qui fait que t'as vraiment l'impression de traîner ton héros.
Est-ce que c'est ça que tu parlais, que ça a pris tellement de temps avant qu'il revienne?
C'est quoi les jeux qui nous ont offert ça?
Mass Effect.
Ça fait pas. on remonte à là, 25 ans, là. Puis c'était là, built-in, puis c'était au noyau du jeu. Là.
Avec une floppy disk.
Avec un floppy.
Floppy.
Puis c'était conçu même depuis le départ. C'était vraiment le projet. Ça devait être, comme je disais, une tétralogie. Parce que chaque jeu utilise une mythologie différente dans l'univers que tu visites. et utilise un élément, feu, terre, etc., central différent. Le royaume de Spielberg, qu'on visite dans le premier, c'est l'élément de la terre. Et après ça, c'est le feu, Trial by Fire, qui est le deuxième, etc. Ils ont fini par briser un petit peu le concept parce que le troisième titre allait être trop demandant pour un personnage qui n'avait pas le niveau encore. Puis, fait qu'ils ont glissé entre les deux.
Est-ce que les cinq jeux sont faits dans le même moteur? Ou ces manies, ils ont changé en cours de route?
Ils ont changé. Les deux premiers sont sur le moteur SCI-0, donc ils ont le même feel, l'interaction avec le texte écrit. Comme je disais, ils ont refait le premier avec le SCI-1, donc avec la souris, plus de texte. Mais tu peux quand même exporter ton personnage. Et le 3, 4, 5 sont dans les moteurs subséquents. Je pense que le 3, 4 est dans le SCI-1, puis le 5 est complètement dans un moteur différent, je crois. Mais... tu gardes toujours le même feel, c'est un point and click adventure. Le système de combat varie d'un à l'autre. Mais je les connais beaucoup moins, le fait que je vais pas m'avancer là-dedans. Mais le 1 avait vraiment une place spéciale, parce que j'ai joué quand j'étais kid. Il m'a fait apprendre mon anglais.
Ouais, t'as pas le choix, là.
Ouais, c'est sûr.
Et c'est souvent une discussion que j'ai. Hein. On a appris l'anglais, nous autres, parce que tu veux comprendre où est-ce que ça va là-dedans. Moi, j'étais un peu plus tard, c'était au SNES, mais hey, tu as déjà joué, toi, un RPG sans comprendre ce que le bonhomme dit.
Mais combien du monde de notre âge vont dire qu'ils ont appris en jouant à Link ou tout ce que Link disait dans Zelda ou tout ce que Final Fantasy
pas Link, Link il dit tant 3 petits points
puis encore
tout ce que les autres disaient
à Link. Mais oui,
tout à fait mais j'avoue puis encore plus dans un jeu où il faut que tu tapes tes fucking actions là.
t'as pas le choix de savoir qu'est-ce que tu fais. Puis comme je disais, moi je trouve que ça enrichissait tellement les puzzles, je trouve ça triste que c'est plus un genre qui existe. Les jeux semi-texte là, parce que c'est ça, tu sais, tu pouvais pas juste comme chasser des pixels dans l'écran pour trouver ce que tu voulais faire. Tu devais le savoir. Ça pouvait pas être un accident, il fallait que ce soit parfaitement délibéré. Oui. Puis c'est pour ça que j'adore encore ces jeux-là. Voilà, donc un très solide 3.5. Essayez ça.
Génial. Fait qu'un 3 pattes et une Ouya, tu sais, si on revient à notre.
Si on garde encore les Ouya, s'il nous en reste une coupe, ça serait trop pattes.
Ils sont chez Future Shop, t'es allé chercher tantôt.
Alors, fait qu'on va prendre une petite pause.
Yes.
On revient après. Quand ça joue, ça veut dire que c'est le tour à Danny.
Mais ouais, c'est quand même le fun, j'ai un beau thème. Ouais, fait que je vous en avais parlé un petit peu la dernière fois, si je me trompe pas, quand on parlait de ce qu'on avait fait.
Yes.
Que j'avais commencé de jouer à Metroid Fusion, que j'avais trouvé à Saint-Eustache. Ben oui, c'est la dernière fois, on a trouvé des Day of Beats.
Ouais, voilà. Saint-Eustache.
C'est très drôle, là. Je fais une parenthèse, là, parce que tu sais, des beats, t'sais, c'est hot. Hein, puis ceux qui savent, j'enseigne. Puis les élèves cool ont des beats.
Ah ben oui.
À chaque fois que j'ai un élève rentrer avec des beats dans la classe, je suis comme « Hey man, y'a des beats! »«
Les gars, j'ai trouvé des beats!
» Ouais. « Les gars, j'ai trouvé des beats, c'est vrai! » Bref, ouais. Fait que grâce à nous, j'ai maintenant un running gag dans ma tête à chaque fois que je vois un élève.
Ça fait plaisir.
Quand même, hein. Ça égaye une journée. Donc oui, Metroid Fusion, que j'avais pogné à une madame qui l'avait caché dans une boîte de memory card. J'avais joué un bon bout, puis j'avais comme un peu arrêté. Je vous parlerai tantôt du pourquoi. Puis là, ben, j'avais pas le choix, là. Mon GS101 rentré, j'ai fourré, je finisse Metroid.
C'était trop beau.
Mais quoi, j'étais rendu presque à la fin pareil. Donc, Metroid Fusion, pour ceux qui connaissent pas, sorti en novembre 2002, développé par la même team qui avait développé Super Metroid aussi là, au Super NES, d'où le fait que le gameplay est quand même similaire là, pour ceux qui ont joué. Je vous en reparle un peu tantôt du gameplay. Là. C'est comme le quatrième jeu de la série Metroid, pour ceux qui sont un peu fans d'histoire comme moi, là, qui aiment bien suivre l'histoire des jeux. Ben, dans le fond, il y a le premier Metroid au NES, qui était le premier de la série, Metroid 2 au Game Boy qui était la suite, Super Metroid le troisième, puis c'était le quatrième, même quand tu pars le jeu, c'est marqué Metroid 4, Metroid Fusion. Donc l'idée, si on veut parler un peu de l'histoire du jeu, Samus est envoyé dans une station spatiale. Il y a eu des explosions, fait qu'il l'envoie faire là, une reconnaissance là-bas. À des coups, dans la station spatiale, il y a des espèces de parasites viraux là, qui appellent X dans le jeu, là, comme la lettre X. Dans le fond, eux autres, ils vont servir d'autres organismes pour les copier, pour les cloner, pour avoir un peu les mêmes habiletés que ces organismes-là. Donc elle se fait dès le début du jeu infectée par un parasite comme ça qui dans le fond va faire que son soude va être comme tout désactivé si on veut. Fait qu'ils réussissent à cleaner du parasite en l'injectant avec de l'ADN de Metroid ou un truc comme ça, parce que c'est une bien bonne idée tout le temps. Bref, elle se retrouve ben, comme à chaque début de jeu, plus de pouvoir parce que sinon le jeu est plate, tu pars avec toutes tes powers de fin, c'est un peu niaiseux. Donc le jeu recommence, t'es plus de pouvoir, mais il y a aussi le saut que tu vois un peu les espèces de... qui est comme un peu infecté, tu sais. Bon, je le voyais moins les premières fois que j'ai joué sur mon GS001, là, mais j'avais compris que c'était ça qui se passait quand même. Donc, voilà. Fait que c'est un peu ce qui se passe. Donc tu te retrouves à perdre toutes tes choses. Tu vas retrouver les habilités là, soit en downloadant du data que la Fédération Galactique t'envoie, ou en fusionnant avec des parasites X justement que tu vas avoir comme tué. Fait que là t'es capable des ingérer, des absorber, des ingérer là, t'es manges pas quand même, des absorber. Puis comme t'es un peu t'as été comme infecté au début, ben il y a une espèce de fusion qui se fait entre les deux, d'où le nom du jeu. Puis tu reprends des habilités comme ça. Donc on avance dans le jeu là, on tue des bibittes, on reprend des powers, puis on comprend que la Fédération Galactique, ben de façon très intelligente, parce qu'on dirait que dans tous les jeux de Metroid, c'est ça, là, sont épais en tas, là. Ils décident qu'ils veulent les capturer, les parasites X, pour pouvoir les utiliser, tu sais.
C'est le gros méchant gouvernement.
Tu sais, c'est brillant de même. Tu vois, tu sais, l'affaire, là, qui est super dangereux, on devrait l'utiliser.
Fait que là, ben... Si tous les gouvernements seraient pas comme ça dans le futur, ben on n'aurait aucun film de science-fiction, on n'aurait aucun film de satirice.
Ça serait plate.
Remercions-les.
Ça serait plate, là.
Fait que shout-out tous les futurs gouvernements galactiques.
Shout-out aux gouvernements stupides du futur qui font de la merde solide.
De quoi du futur?
Bah! Commentaire sur la campagne électorale ici. Bon, tu sais, moi, je dis que voyons, Stephen Harper, il clone des métroïdes dans son sous-sol.
Gros sous-sol.
Commentaire électoral. Fait qu'au journée du vote, là, on vote tout pour Samus Aran, sur notre bulletin de vote, on rajoute une case. Puis,
moi, je vote pas pour les Metroids, ça
va pas. Non, vraiment pas. Bref, Samus se rend compte qu'ils veulent faire ça, fait que sa décision, ben, on va tout faire péter à la station pour que les parasites soient détruits. Grosso modo, là, c'est un peu l'histoire du jeu. T'sais, c'est sûr que c'est les Metroids, hein, l'histoire, elle est là, elle est intéressante, là, mais c'est pas une affaire de 25 heures d'histoire à la style Heroes Quest. Là. Donc, ouais, c'est un jeu qui a un gros score quand même. Là. Quand j'en parlais les premières fois ben avec Mathieu là, qui m'a dit « Man, achète ça, c'est un bon jeu. » Moi qui n'avais pas beaucoup joué aux autres Metroid, ben, j'avais joué au Metroid 1 quand j'étais au primaire, puis on comprend que jouer à Metroid 1 au primaire, ça te donne pas la meilleure expérience de jeu.
Yeah.
Fait que ça tourne en rond. Puis c'est ça.
C'est un petit peu dur d'approche, le premier Metroid.
Quand même, surtout quand t'as genre 10 ans, tu sais. Ça aide pas. Bref, ouais, tu me disais comme bon, c'était peut-être pas le meilleur de la série. T'as, gros score, le 92% sur Metacritic quand même. Surpris un peu, mais en même temps, pas surpris après l'avoir joué. Là. Dans le fond, je suis assez d'accord avec ce score-là après l'avoir joué, même s'il y a des bouts où est-ce que j'aurais donné un 8% de temps en temps, tu sais, une frustration. Bref, le gameplay est vraiment bien, là. Le jeu répond bien, tu sais, les boutons sont bien mappés, t'as tes boutons pour sauter, pour shooter, mais t'as aussi les boutons pour tirer les missiles, puis pour viser là, soit en haut ou en bas, comme dépendant si t'es sur le sol, tu vas viser un 45 degrés vers le haut en utilisant tes triggers sur le Game Boy, ou si t'es dans les airs à accrocher après quelque chose, tu vas le baisser. Fait que ça, c'est vraiment bien fait, c'est assez instinctif, tu comprends facilement comment l'utiliser, puis tu sais, c'est pas juste des boutons qui sont là pour ça, là. Faut que tu tires à 45 de temps en temps, sinon tu y arrives pas. Tu sais, c'est bien organisé. Bref, les contrôles, super. Là. C'est classique quand même dans le style. Pour le reste, t'as ton blaster qui, au début, tire des petits piou 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 piou. Puis là, ben, à un moment donné, t'apprends que tu pognes un update qui se booste.
Moi, j'aime ça, les piou piou.
Piou 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 piou.
Yeah! Ça nous prend ça sur le soundboard.
Piou piou piou.
Ça nous prend toi qui fait piou 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 piou.
Ok. Donc, t'as ton petit piou piou qui devient piou piou plus tard, tu sais, ou piou. Parce que tu peux le booster.
Ah, ben oui.
Puis désolé pour vos tympans.
Non, mais c'est un bon moment, recommence.
Comment?
Piou! Oh, je suis tanné, là. Hein?
Je suis tanné. Peux-tu continuer de faire mon review, là? Je suis rendu un soundboard ici. J'ai même pas besoin de me coder.
On m'utilise comme un objet.
L'homme objet, l'homme soundboard.
Comme le gars de la Police Academy.
Oh, mais non, quand même pas. J'ai perdu le bip, j'ai pas te manquer.
Il fait juste piou-piou.
Juste piou-piou. J'ai comme moins de range un peu. Bref, mes piou-piou, t'as les missiles que t'as quand même, t'as tes bombes que tu finis par pogner, les upgrades, fait que ton piou-piou devient plus fort, ton piou-piou fait des triple shots, ton piou-piou fait des triple shots qui passent à travers des murs, tu sais, on voit le principe. Même principe pour les missiles, devient de plus en plus fort. Puis qu'éventuellement, tu peux booster pour faire un shot qui gèle tout le monde, t'sais, c'est assez intéressant. Mais quand même classique, là, c'est rien de très très nouveau. C'est voilà. Puis un peu partout dans le jeu, ben t'as quand même t'as aussi des power-ups que tu peux trouver qui te donnent plus de missiles, plus de bombes, plus d'énergie. La progression est quand même assez rapide au début, au niveau de ton apprentissage. Mais en même temps, c'est assez intéressant. Je veux dire, tu progresses tranquillement, tu pognes un premier boss qui est pas trop dur à tuer, t'as un premier power-up, puis là, ben, il t'aide à tuer. Tu sais, ça progresse bien, surtout au début. Donc, les power-ups, on en croise beaucoup en chemin, même qui sont indiqués sur la map, fait que ça nous donne une idée, OK, ici, il devrait avoir un power-up. Même en est, tu t'en rends compte que, OK, il y en a un qui est là sur la map, mais je peux pas le pogner, j'ai pas l'upgrade de mon gun pour le trouver. Tu te dis, ben, j'en reviendrai plus tard. Fait que t'en croises beaucoup, puis c'est pas tout le temps. Tu sais, ils sont pas tout le temps accessibles non plus. Des fois, ils sont, faut que tu gosses, faut que tu cherches, faut que tu. Bon. Dans le jeu aussi, si on va au gameplay, t'as une intelligence artificielle qui t'aide, là. J'ai oublié, il donne un nom, là, qui rappelle quelqu'un qui doit venir d'un autre jeu, mais que j'ai pas joué, fait que j'enregistre pas. Bref, il y a une intelligence artificielle qui t'aide, puis que quand tu vas dans les salles de navigation, ils te disent où aller. Fait que c'est un jeu qui est très très directif. Moi, qui a pas joué beaucoup aux autres Metroid, j'ai trouvé ça intéressant. Ça a le fait que j'ai pas tourné. Ben, en fait, ça a peut-être aussi aidé à mon expérience de Metroid 1 au NES à 10 ans pour comme briser le traumatisme. Fait que ça me disait où aller, puis c'est quand même bien. Mais des fois, c'est un peu trop.
Ben, c'est habituellement le point négatif qui était relevé de ce jeu-là, c'est que c'est weird d'avoir un Metroid qui tient par la main à travers le jeu. C'est ça.
Ben c'est ça. Moi, j'ai pas joué aux autres, fait que je l'ai moins peut-être senti comme ça. Mais des fois, tu sais, c'est comme, ben va là, puis si tu veux aller ailleurs, c'est pas possible. T'sais, c'est même pas, on dit d'aller là, puis il faudrait que tu y ailles. Si tu essaies d'aller ailleurs, les portes sont barrées ou carrément bloquées, puis tu sais, bon, ben des fois, c'est un peu trop. Puis comme tu dis, si t'as joué aux autres, c'est sûr que tu fais, voyons, prends-tu pour un bébé. Fait que je peux comprendre ceux qui sont des gros fans qui sont rendus là. En même temps, ben ça t'aide quand même à te diriger, à savoir un peu plus que ce que t'as à faire. Tu te cherches moins. Mettons que j'aurais pris le jeu, je l'aurais mis sur une tablette, j'aurais pas joué pendant une couple de mois. Mais tu reprends le jeu, tu repasses dans n'importe quel salle de navigation, puis ils te redisent quoi faire. Ce qui est quand même intéressant aussi, parce que des fois, tu peux être complètement perdu si t'as pas joué pendant un bout de temps.
C'est bien pour un jeu, une console portable.
Ben oui. Voilà. Donc, ouais, il y a ça qui est dans le jeu, comme au niveau des autres personnages un peu récurrents. Là, t'as un ennemi qui apparaît là, à mesure que le jeu avance, qui est le SAX, qui est un clone finalement de Samus, comme un parasite X qui a cloné complètement Samus, mais qui a cloné Samus comme full power finalement, probablement au début là, quand il t'a accompagné. Puis c'est intéressant parce que ce personnage-là, au début, quand il apparaît dans la station, ben, ton intelligence artificielle te dit Dude. Mais pas Dude, en tout cas. Dude, pareil.
Doudette.
Si tu le croises, décalisse. Parce qu'il va te démolir. Puis comme de fait.
Et décalisse.
Et oui. Si tu le croises au départ, quand t'as juste, mettons, peut-être 2-3 power-up de vie, t'as comme 300 d'énergie, puis tu le croises, puis tu te sauves pas comme il dit de faire. Oublie ça, là. Une shot, puis t'es mort, là. C'est fini, là. Fait que c'est quand même intéressant. Ce bout-là, je le trouve ça le fun. T'sais, c'est comme, oh shit, t'entends la musique. Puis il y a une musique qui change quand ce bonhomme-là, quand cet ennemi-là est là. Fait que tu le sais. Là, t'entends la musique qui change si tu joues avec du son, puis tu sais, oh shit, faut que je me sauve. Fait que c'est quand même intéressant.
Et toujours au même endroit?
Non. C'est vraiment dépendant où est-ce que tu t'en vas. Lui, il va être là.
Mais c'est scripté, là, oui.
Oui, ok, c'est dans ça. Ce sens-là. Ouais. Oui. Oui, c'est oui. Oui. Mais, puis, mettons, au début, c'est tu le vois décalisse, ou tu le vois cache-toi. Mais à un moment donné, c'est tu vas le voir, évite-le, mais faut que t'ailles par-dessus où est-ce qu'il est, faut que tu te dépasses. Fait que là, tu passes par-dessus, tu sautes, puis là, tu te sauves. Mais là, lui, te sauve, il court après. Fait que là, il faut essayer de te sauver le plus vite possible. Puis si t'es pas assez vite, il te rattrape. Hein, t'es mort.
Ah, c'est du moment de film d'horreur. Là.
Vraiment, là.
C'est pour toutes les fois que le monde dit que c'est un moins bon Metroid, moi, juste ça, trouve que ça rajoute à déjà l'atmosphère extrêmement forte de tous les Metroid. Ils viennent de rajouter un facteur alien dans le cas. Oui,
qui mais tu peux penser justement au dernier alien où... Avec Xenomorph, te chasse à travers le vaisseau.
Ben, c'est ça, mais ben, t'sais, ça a toujours été une série d'horreur, Alien, dans le fond. Puis ça a ce feel-là de oh shit. C'était carré.
Mettons, je regarde un peu de mémoire. Je pense que la première fois que tu le croises, tu fais juste comme rouler en boule en dessous du plancher, fait qu'elle te voit même pas. Mais là, tu la vois passer en haut, puis le son a changé, puis t'as compris que de quoi qui se passait. Et un autre moment où est-ce qu'il faut vraiment que. En fait, une des choses qui fait qu'il est si dangereux, c'est que comme t'es fusionné avec un Metroid, ben t'es super comme sensible au froid. Puis elle a le ice beam là, avec son piou-piou-piou, il tire des ice beams. Puis si elle te touche, ben t'as fait comme plus de dégâts à cause de ça. Fait que c'est comme une explication de pourquoi elle est si forte que ça. À un moment donné, il faut que tu passes par-dessus. Tu viens de repogner tes ice missiles, fait que tu shoots un ice missiles, elle gèle pendant comme 2 secondes. Fait que t'as le temps de sauter par-dessus, tu te mets à courir. Tu sais, c'est là que ça... Puis là, ça m'a pris une couple de fois avant de comprendre que, rendu au bout, là, puis je me cache en arrière d'une petite corniche, ben reste caché.
Ah, c'est tellement le plus malade.
Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis dans un trou. Là, tu ressors du trou, elle arrive. Gah! Après une couple de shots, ben tu te fais comme, ben si je reste dans le trou, ah, arrivé de bord. OK. Mais j'avoue que ce bout-là, là, ce gameplay-là était cœur.
L'attention.
Tu sais, à mesure de t'avances, tu pognes assez de power, à un moment donné, tu fais comme OK, là, tu vas l'affronter. T'es comme content de l'affronter encore plus. Bref, ce côté-là, là, le SCX, c'était vraiment intéressant. Tu finis par. Bon, c'est ça, tu finis par te sauver. Puis ce bout-là, j'ai trouvé ça comme une belle mécanique là, qui rajoute un petit stress à un jeu tu sais, qui est le fun, là, mais ça rajoute un petit côté bien le fun aussi. Bien différent peut-être un peu des autres aussi là, que tu n'avais pas avant. Ouais, donc beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là. Quand je l'ai eu, j'ai joué comme non-stop, entre guillemets, là, mais beaucoup de suite. Je m'assoyais, je jouais à ça sur le divan. J'étais devant mon PS3, j'étais à côté de mon ordi. J'étais assis devant mon ordi, puis je jouais à ça pendant qu'il y a de quoi qui loadait.
Bah, tu devais être en train de jouer à WoW, fait qu'il n'y avait rien à faire. Là.
Non, même pas. Non, quand je joue à WoW, j'écoute du Netflix en même temps. Oh. Ouais, j'allais faire une joke de ou du YouPorn.
Netflix, c'est chill.
Bref, j'ai joué beaucoup, beaucoup. Fait que je me suis rendu quand même assez rapidement loin. Puis au début, on dirait que tout était facile. Puis, tu sais, même si je pognais pas tous les power-ups, ça allait quand même assez bien. À un moment donné, la progression en difficulté est devenue ridicule. Tout était facile, à un moment donné, bang! Ça devient comme super tough. Je suis mort 22 fois sur le même... Bon, j'exagère quand même, là, mais je suis mort plein de fois sur le même boss. J'ai fini par comprendre comment le battre, puis je l'ai battu, mais ça s'était jamais produit avant. Tu sais, c'est pas « Ah, je meurs une fois ou deux à chaque boss, ça me donne une idée. » Tu sais, les premiers boss, c'est comme « OK, je sais comment le tuer. » Bon, c'est sûr que j'ai quand même une expérience de jouer à des jeux, à des Zelda, puis tout ça, fait que peut-être que je comprenais plus facilement, mais j'ai l'impression que la progression en difficulté a monté comme d'un coup. Puis moi, ça me gosse un peu. Fais-moi une progression plus constante, puis je vais être content que ça soit tout le temps difficile. Là, c'est comme facile, facile, facile. Wow, méga dur. Des fois, ça me donne le goût de faire de la chenoute. Bon, là, en même temps, j'étais comme, ouais, mais le jeu, il est fun, je veux le finir. Je vais être franc, le fait que je voulais en parler dans un podcast a fait que j'avais encore un peu plus le goût de le finir, tu sais. Puis surtout qu'il y avait comme bon l'histoire, puis dans le jeu, ils vont hinter que quelque chose que tu sais pas, qui est le bout où est-ce que la Fédération veut utiliser les Perzitex, là. J'aurais dû le deviner, je l'ai pas deviné, mais je me demande qu'est-ce qu'ils veulent, ils veulent-tu me tuer, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Fait que t'as quand même quelque chose qui... Fait que la progression a été comme pas très très constante, à un moment donné, ça devient très très difficile. Puis moi, j'ai pas habitude dans les jeux comme ça à aller chercher les power-ups. Tu sais, quand il y en a un pas loin, j'essaie de le trouver. Si je le trouve pas ou si je me rends compte que je peux pas le pogner, je reviendrai plus tard. Tu sais, je suis plus du genre à bon, je sais que le boss arrive. Mettons à Zelda, je fais souvent ça. Je sais que le boss arrive, moi, j'essaie de trouver tout ce que je peux trouver. S'il manque 2-3 morceaux de cœur ou une coupe d'Energy Tank, je vais aller voir sur le net parce que je suis comme un semi-complétionniste. Tu sais, je veux que ce soit complet, mais j'ai pas goût de me faire chier pendant 22 heures. Tu sais. Mais là, je pouvais pas. Plein de places qui étaient fermées. Plein de places qui étaient barrées, mettons, par mon screw attack, là, que quand tu sautes, ça fait de l'énergie autour de toi. Là, tous ceux qui ont joué à Smash Brothers l'ont vu. Puis quand je le pogne, je me rends compte que toutes les portes sont encore barrées. T'sais, je sais pas s'il y a quelque chose que j'ai pas compris ou une patente que. Bref, j'arrive à la fin, je m'approche du boss de la fin, puis je sais que je m'approche du boss de la fin parce que mon intelligence artificielle me dit tu t'en vas à telle place, attention, SCX est là, tu pourras pas te sauver. Puis je peux pas aller nulle part dans le jeu, là. Tout est barré, puis. Pas comme parce qu'il y a un lock que j'ai pas débarré. Non, ils ont mis des foutus blast doors que je peux pas passer. Puis je suis comme, OK, mais là, c'est cave. Là. Fait que tous les power-ups que j'ai pas cherché quand c'était le temps...
C'était là ou jamais.
C'était là ou jamais. Puis ça, j'avoue que je trouve ça un peu gossant. Parce que tu te dis, OK, j'ai de la misère, la progression, elle a monté en difficulté assez vite. Je me dis, je vais aller chercher des power-ups pour m'aider. Nope. Puis c'est pas le nombre de missiles. Là. J'avais comme 150 missiles. Là. Je veux dire, même en voulant, je les aurais pas toutes burnées. Puis... Mais mettons pour les Energy Tank, ben ça m'aurait aidé d'avoir une couple de centaines de vies de plus.
Mais est-ce que t'aurais pu revenir en arrière?
Non.
Non, mais c'est ça.
C'est ça.
Il y a des portes qui se condamnent, passer certains points dans le jeu, puis tu peux plus revenir.
Ok, mais c'est pas comme mettons le premier où ce que tu peux tout le temps.
C'est pas comme toutes les autres. Ouais. C'est
fait ça que le weird. Côté comme dirigé devient comme trop intense à ce moment-là. Moi, tu m'avais dit, bon, après ça, retourne en arrière, va y chercher. Parfait, je l'aurais fait, là. À un moment donné, je l'ai fait un peu au début en me disant, ah, je viens de débarrer les portes bleues, mais aller revoir dans le secteur 1, il y avait une porte bleue. Mais à un moment donné, je suis, bof, tu sais, je reviendrai plus tard, j'ai beaucoup de repasser tous les secteurs parce que j'ai une pognée, un power-up. À un moment donné, ça devient comme vraiment long. Fait que, tu sais, il y a ça qui m'a. Ça m'a nuit. Parce que là, rendu à la fin, ben, les derniers boss sont vraiment tough. Puis ma vie était pas aussi haute qu'elle aurait pu être. Fait que, tu sais, ça rajoute une difficulté qui. C'est là que ça m'a bugué un peu. Fait que, tu sais, ça. Il y a ça que j'ai trouvé un peu dérangeant. Après ça, ben. Mettons, j'arrivais à le projet là. On me dit, là, faut que t'ailles peser sur le piton de self-destruct. Puis SCX va être là, c'est sûr. Fait que prépare-toi à te battre. Fine. Fait que tu saves, tu montes, puis il y a un petit bout à faire. Tu te rends là. SCX arrive. Comme de fait, première fois, je me fais wiper en comme 32 secondes, même pas, là, tu sais. C'est comme, bah, ah, je suis mort. Bon, point positif, quand tu meurs, le saut explose.
Oh.
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 Non, c'est tu sais, fait que, bon, ok, je suis mort. Là, ça reload. T'as quand même encore comme ton presque une minute et demie à faire pour te rendre au boss.
Oh, c'est mets, chiant.
Mets le save point plus proche.
Ouais, il te ramène pas juste à la porte. Là, faut que tu,
non, faut que tu reponges au dernier save point qui est loin. C'est pas parce que j'avais savé loin, j'avais pas savé. Il est loin. Puis il n'y a même pas d'ennemis, rien. Là. C'est juste comme tu sautes des plateformes, tu montes, pas un ascenseur, tu sautes des plateformes, puis là tu bon, après ça, fini par ben, comprendre comment le boss fait. Ça, ça va, j'avais compris. Fini par réussir à le faire comme il faut. C'est assez cool. Toutes les autres portes restent encore fermées. T'as une porte qui est ouverte, c'est celle où est-ce que ça va au self-destruct button, puis quand tu pèses le self-destruct button, le countdown part. C'est OK. Ouais. Fait que tu redescends encore tout le chemin, tu repars par une save room, mais tu peux pas saver parce qu'il y a un countdown. Puis là, tu continues, tu te rends jusqu'à ton vaisseau. Hein, ton vaisseau est pas là, il y a un gros métroïde, c'est le dernier boss.
Tu meurs là.
Tu meurs. Fait que faut que tu recommences. Tu te rends à SCX, tu rebattes SCX, qui les premières fois est encore pas évidente. Bon, je t'ai rendu pas pire à la fin, là. J'avais compris une couple de tactiques qui faisait que ça allait bien, tu sais. Tu parles que je joue à War, je suis un Raider, je finis par comprendre comment les boss scriptés marchent. Mais c'est long, là. Puis là, tu te retournes à la fin. Puis c'est intéressant comment ça se passe, le dernier boss. T'arrives contre lui, tu peux pas rien y faire, il donne une swipe, tu tombes à un point de vie. Le SCX que t'as tué, t'as pas absorbé le parasite, il s'est comme sauvé, il revient, il shoot avec les missiles de glace. Ah, tu te rends compte que c'est le seul arme qui peut comme endommager le dernier boss. Elle se fait frapper, tu pognes le parasite, puis tu peux le faire. Mais là, tu sais, le combat, il est vraiment poche. Comparé à SCX, que tu sautes partout pour éviter les beams, que tu charges ton beam, puis le dernier boss, faut juste que tu te mettes à côté de lui, tu tires en diagonale, puis tu te tasses, parce que quand il te swipe, ça te stun. Puis là, il te swipe, ça te stun, puis si t'es mal placé dans l'écran, ou pas assez loin, il te swipe, ça te stun, il te re-swipe, ça te stun, il te re-swipe, ça te stun, t'es mort. Puis là, tu fais quoi quand tu meurs là?
Tu recommences.
Fait que là, j'ai comme fait. Okay. Mea culpa, là. Je l'ai pas vraiment fini. Là. Je me suis juste tanné de recommencer tout le temps. Donne-moi un save entre les deux derniers boss. Là, pour qu'au moins, quand je meurs au dernier boss, j'ai pas besoin de me retaper l'autre d'avant, de marcher à peu près 3 minutes au total entre les deux. C'est juste fatigant. Puis c'est ce qui a fait que j'ai fait comme. Mais tant pis. Je comprends ce qui s'en vient. Je le tue, j'embarque mon vaisseau, je m'en vais, c'est fini. La station explose. Là. Je veux dire, il y a pas de surprise rendue là.
Effectivement.
Fait que le bout là m'a comme dérangé, puis je trouve ça plate parce que j'ai eu vraiment un gros fun, puis ce qui m'a dérangé, c'était à la fin. Fait que ça me laisse avec un petit goût amer qui est plate parce que si je repense à tout le fun que j'ai eu avant, puis que si je repaisais New Game, j'aurais vraiment du fun encore, mais la fin, c'est des petits trucs qui bug, puis qui étaient pas nécessaires. Là. Mais bon, j'ai l'air de comme faire un jeu de schnout. J'ai vraiment aimé le jeu, tu sais, je reviens en conclusion. J'ai beaucoup aimé l'histoire, le concept là, avec les parasites, avec la fédération, avec l'intelligence artificielle qui t'aide, avec le SCX qui court après, qu'on avait dit tantôt que t'es comme oh shit, puis tu trouves, puis tu te shot, puis tu meurs en un coup, tu sais. Je trouve que c'est une mécanique le fun quand c'est intégré dans l'histoire comme ça. Beaucoup aimé toutes les directions qui me disaient un peu où aller, justement, qui ont, comme je disais, brisé mon PTSD, là, mon syndrome de stress post-traumatique de l'enfance de Metroid 1, qui me disait un peu, OK, je m'en vais là, je fais ça, puis tu sais, ça me donne le goût de jouer aux autres Metroid, là. Ben, particulièrement maintenant à Super Metroid ou peut-être à Zero Mission, là, qui est comme un remake d'original.
Yes.
Parce que le gameplay, j'ai trouvé vraiment le fun. Je savais pas que j'aimerais les gameplays Metroid parce que mon expérience avait fait que j'avais pas comment embarquer, mais le concept, le principe d'avancement, de boost, je trouvais ça super le fun. J'aurais aimé ça avoir un peu plus de possibilités de me promener dans entre guillemets un peu open world. Fait que si je skip un power-up, ben je peux essayer de le retrouver un peu plus tard. J'aurais aimé une progression un peu plus constante de la difficulté, qui est pas facile, méga tough, tu sais, parce que bon, j'aime ça une difficulté dans un jeu. Je suis pas comme je veux jouer un jeu facile, là, tu sais, mais on peut mettre un jeu à easy, mais tu sais, une progression.
Il y a une distinction là entre un difficulty bump.
Ben, c'est
juste
ça.
Devenir plus dur.
Comme si tu prends le temps d'explorer chacune des sections avant qu'il soit sealed off et tu puisses plus y aller, est-ce que cette difficulté-là disparaît puis finalement à la fin ça devient.
Ben oui et non, je te dirais que j'aurais eu plus de vie. J'aurais peut-être mangé deux coups de plus avant de mourir du boss que j'ai trouvé tough au lieu d'un coup. Tu sais, ça n'avait pas une grosse distinction. Oui, peut-être que mettons, ça aurait fait que, mettons, SCX à la fin, je l'aurais battu en, je sais pas, 4 essais au lieu de 8 parce que j'aurais eu un peu plus de vie, fait que j'aurais été capable de le tuer. Fait que je pense pas que ça aurait peut-être un peu aplani dans le sens où j'aurais pu manger plus de coups, mais dans les faits, les boss sont faits pour qu'il faut pas que tu en manges. Si tu manges des dégâts, ta vie, elle drop vraiment vite. Fait que ça aurait aidé un peu, surtout pour que je comprenne les mécaniques au départ. Ça aurait pas fait une si grosse différence non plus. Je pense que vraiment, tout d'un coup, les boss devenaient vraiment plus durs d'une shot parce que t'as beaucoup plus d'habilité à gérer, tu sais. Je comprends l'idée là, que les premiers boss, t'as juste un petit piou 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 piou.
Fait
que
c'est
plus difficile à gérer. Mais tu sais, je trouve qu'il y avait vraiment une bombe à un moment donné. Tu sais, c'était facile, facile, facile. Où je mourrais une fois. Puis à un moment donné, je meurs comme 6-7 fois avant de réussir à tuer le boss.
Oh non, c'est. C'est aliénant.
Un peu là. Probablement que j'aurais abandonné si c'était pas du fait que je voulais vraiment le finir. Pour un paquet de raisons, entre autres parce que j'avais dit que j'allais finir puis faire une review.
Mais t'as abandonné quand même.
Bon, j'étais au dernier boss.
Kind of.
J'avais vu tout ce qu'il y avait à voir, bon. À part le vaisseau qui s'en va dans l'espace, là, puis le générique.
Fait que sens-tu que t'es quand même en mesure de donner une critique?
Tout à fait. Tout à fait, puis je suis vraiment content au final. Quand je me suis dit, bon, on va refaire préparer mon review, je me suis mis à me dire, non, écoute, j'ai eu bien du fun, là. Tu sais, la fin, je trouve que c'est des petits trucs gossants qu'il faut que je recommence quand. Mais sur le total. Hey, je me donne un 3 pattes Unouya, puis Unouya qui fonctionne encore même.
Oh wow.
En fait, ils sont tous fonctionnels parce qu'on est inbox.
Personne les use, tu sais.
mais Unouya Complete Inbox, ça vaut moins cher que Unouya usagé, ça a l'air.
Ben, ou ça doit être semblable.
C'est comme les livrettes avec des codes dedans.
Ouais, c'est ça.
Tu l'achètes pas pour jouer avec, tu l'achètes pour
pour faire une patte de
les souvenirs.
Fait que ouais, j'y vois qu'un. Parce que je mets une grosse note parce que j'ai eu vraiment beaucoup de fun quand j'ai commencé à jouer. Puis quand je me remets à penser que, ben. Tu sais, à un moment donné, je pourrais le recommencer, faire un peu plus attention aux power-ups, puis ça serait peut-être un peu plus. Ou, ben, minimalement, je saurais à quoi m'attendre, puis je serais moins frustré. Fait que non, ouais. Bon jeu, vraiment content de mon achat. Beaucoup d'heures de plaisir pour un petit 10$ dans un marché aux puces avec des offbeats.
Ah, les offbeats.
Les offbeats.
Hey, merci, Danny. Fait qu'il nous reste juste à parler de notre merveilleuse soirée de samedi de la semaine dernière.
Ouais, notre première vraie soirée Divan Quest.
Qui mérite de porter le nom, là. Trois gars, bon, deux divans, là, mais bon, c'est juste cet étape chez nous, là.
Trois gars, deux divans.
Ça sonne comme le titre d'un porn. non, on s'est ramassé tout chez nous parce qu'on voulait jouer à Curses and Chaos. Jeu qui nous intéressait tous les trois, puis je l'avais acheté, puis on s'est dit, bon, ben écoute, on va faire une petite soirée de ça. Fait qu'en attendant que Danny arrive, vu qu'il arrive un petit peu plus tard, moi puis JF, on parle de choses et d'autres, puis on commence à jouer à Disney Infinity 3.0 que j'ai ramassé la semaine d'avant. Étant
dans le
un.
Force,
ouais, non, c'était avant, c'était Friday. Ouais. Mais étant un gros fan de Star Wars, ben je me suis dit, les figurines sont super belles, je vais me ramasser ça, puis. Si on est chanceux, les figurines seront belles.
Puis ça faisait longtemps que t'as parlé, parce que ça faisait longtemps que tu parlais des figurines, mais tu sais, pas juste de Disney, mais de.
Infinity.
Pas juste de Star Wars, je veux dire, mais de toutes les figurines qui avaient sorti avant, puis comment que les modèles étaient, tu sais.
Je trouve le look écœurant. Mm. Le art style qu'ils ont pris pour les figurines m'a toujours fait triper, mais je voulais pas comme go down that rabbit hole. I did, mais je m'en tiens à Star Wars, tu sais. Fait que je peux garder ça encapsulé sans tomber dans tout le Marvel puis toutes ces affaires-là. T'sais.
Ouais.
Fait que bref, tu m'as dit.
On a pas Captain Barbossa dans notre set.
Ah, c'était un cadeau. C'est un cadeau.
Ça compte pas, c'est un cadeau.
Et voilà. Mais ça, bref, on jasait, puis on a décidé de commencer à jouer. Et, colique, c'est quand même drôle en coop. Moi, ça me donne un feeling à rejouer, là, puis surtout à avoir joué un petit peu aujourd'hui avant le pod. Ça me ramène au platformer qu'il y avait sur Play 1. Il y avait beaucoup de platformers en Play 1, puis il y en a un que j'avais qui s'appelait Kingsley's Adventure, qui était un moitié exploration. Puis... Mais tout ce feel-là, Medieval, qui est un autre platformer de Play 1 vraiment cool, je trouve que ça a ce feel-là de platforming genre semi-tight, mais avec plein de belles choses à explorer, puis juste du plaisir raw. Genre juste du fun.
Mais je pense que c'est ça le thème principal, parce qu'on. Tu sais, s'orienter pour un public peut-être un peu plus jeune, on s'entend.
Oui, tout à fait.
Mais on était assis avec une manette, puis on avait littéralement du fun. Là. On riait, puis les
moi, j'ai lu pas mal sur le jeu, là, puis je vous expliquerai pourquoi dans quelques minutes. Là. j'imagine qu'il y en a qui devinent. Puis ce qu'il disait, c'est vraiment là, comme la différence entre le 2.0 et le 3.0, c'est vraiment ça, là, c'est le gameplay. Là. Parce qu'avant, c'était vraiment comme une raison d'avoir des figurines dans un jeu qui était comme semi-tight, puis que le 3.0, là on a de quoi, là on a du bon gameplay, quelque chose de le fun à jouer, en plus des belles figurines, là, puis t'sais.
Ouais, merci Ninja Theory.
Ouais, c'est ça parce qu'ils ont, pour ceux qui seraient au courant, Avalanche Studios, qui développe le jeu, ont toujours fait affaire avec d'autres studios pour les aider dans différents jeux. Puis pour Infinity 3.0, ils ont engagé Ninja Theory pour faire le jeu qui concerne toute l'époque de la trilogie originale. Non, trilogie des prequels, excusez-moi. 1, 2, 3. Et et des Clone Wars, là, bon, toute cette époque-là. Ils ont fait le jeu au complet, mais ils ont aussi révisé tout le système de combat pour tout le système du jeu au complet.
Mais mettons pour ceux, parce que moi quand je suis arrivé, je connaissais pas le jeu, là, je savais qu'il y avait des bonhommes, puis que tu mettais des bonhommes sur une base pour les jouer. Là. Mm-hmm. Disney Infinity, c'était un peu comme une espèce de setup, un monde finalement, où est-ce qu'après ça, t'as comme un paquet d'affaires que tu peux faire, mais entre autres, tu peux jouer dans un playset qui appelle que tu t'en vas dans un des univers. Puis là, ben le 3.0, les univers, Star Wars deux fois, puis Inside Out, là, qui est plus kid game là, un peu. Là.
Ouais. Ouais, c'est vraiment un coffre à jouets, tu prends n'importe quelle figurine, puis tu les emmènes dans ton univers.
Puis. Sur le sujet là, tu peux pas, je sais que JF l'a pas joué puis fuck it après le podcast tu vas faire ça là, l'intro d'Infinity 3.0.
Vraiment.
C'est tu peux pas être autre qu'un enfant complètement en extase les yeux ouverts après avoir joué l'intro.
Tu le dis là, j'ai les petits frissons puis le smile quand je l'ai mis parce que j'avais bon, OK, je l'ai acheté. J'étais arrivé, il était en train de jouer, j'ai fait comme Chris c'est bien hot, puis j'ai fait, va donc chier. Mathieu, va chier. Puis le lendemain, je l'avais là. Mais justement là, je t'avais pas pour cette intro là. Moi j'avais vu jouer à Star Wars, puis j'avais vu un petit peu aussi l'autre playset que t'avais en...
Puis je voulais qu'on la mette quand on est venu jouer, mais on a finalement réussi à partir à jouer à Crisis and Chaos.
On était là pour ça là. Mais j'ai mis 10 chez nous, puis écoute, c'était le matin là. J'étais quand même un enfant là, puis je m'étais levé comme de bonne heure, j'étais réveillé de bonne heure, j'ai plugué mes écouteurs. J'étais assis sur le divan en bobette, avec ma manette dans les mains.
Avec tes Pop-Tarts.
Non, ça aurait pu, mais non. Puis le smile fendu jusqu'aux oreilles. Là.
C'est tellement cool.
Je veux pas dire ce qui se passe dedans. D'un coup, quelqu'un déciderait de l'acheter. Faut que tu le découvres, faut que tu le vois. Parce...
Cherchez au pays, il y a des reviews qui en parlent. Mais si vous allez, c'est tellement une belle surprise quand tu le mets dedans. Voilà. Puis je pense que c'est la meilleure façon de te présenter c'est quoi Infinity. Puis, gars, j'ai pas joué énormément d'heures à date, là, mais j'ai aucune idée du scope de ce produit-là. Parce que t'arrives dans le hub, il y a plein de secteurs à explorer, en dehors des playsets, puis en dehors du toy box. Dans le fond, ce qu'on sait du jeu, t'as des playsets qui représentent chacun des films ou franchises à ce moment-là.
Puis playset, c'est vraiment une figurine que tu déposes là, sur le...
Ouais, c'est ça, c'est un petit élément translucide qui représente l'univers, que tu mets sur la base. Danny, pourquoi tu ris?
It's a trap!
Le playset, celui qui est sorti en général, mettons qu'on parle de Star Wars, là, parce qu'Inside Out, c'est pas celui qui nous intéresse, là. C'est les prequels qui est sorti. Sony, exclusivement, a les deux premiers playsets de Star Wars, donc les prequels. Un mois d'avance. Les prequels, comme les autres, mais tu peux acheter un bundle avec aussi la trilogie originale. Puis moi, je joue sur PS3, j'ai pas de console plus récente. M'acheter sur PS3, de toute façon, c'est très très cartoony. Fait que oui, c'est moins beau, mais ça se gère quand même bien. Puis là, je déballe ça chez nous, je suis content comme un enfant, plein de figurines. Il y a un Boba Fett spécial qui est vraiment, je pense, une des plus belles figurines. Ouais, là.
Très coloré, vraiment cool.
Puis là, je sors le playset des prequels, ça va. Là, je sors le playset de la trilogie originale. Puis c'est une petite Death Star qui est écœurante. Mais pour ceux qui ne savent pas, les playsets, t'as comme une figurine qui sert à pas grand chose d'autre là, qu'à être beau. Puis t'as un espèce de disque que tu déposes à la plateforme. Fait que t'as vraiment la Death Star comme une boule. Puis une espèce de stopper.
De stopper!
qui sert à mettre sur la plateforme. Fait que quand je l'ai prêté à Mathieu parce qu'il arrêtait pas de m'envoyer chier là, depuis que je l'avais acheté.
Puis que j'avais pas accès à ça parce que je joue à Xbox.
Puis, fait que quand j'ai prêté, il dit « Ah, tu m'as prêté ton butt plug? » Ça a quand même un petit peu un look de butt plug en forme de Death Star. C'est pour ça que je ris.
Et voilà, la butt plug.
Grosse explication, la moitié du review pour parler de butt plug.
Totally worth it.
But it's no moon.
But it's no moon, it's a motherfucking butt plug, sir. Ouais, c'est ça.
Je sais pas où est-ce qu'on s'en a avec ça.
Aucune idée. Mais.
Tu parlais des playsets puis de ce qu'il y a d'autre.
Ouais, c'est ça. T'as tellement de choses. Je sais qu'il y a. T'as une maison que tu peux meubler, décorer, que tu peux mettre de la logique dedans avec les systèmes du Toy Box pour faire comme des systèmes automatisés, là, des logiques, des systèmes logiques.
J'ai pas fait grand chose de plus.
Il y a la domotique dans ta maison, dans Infinity.
Ouais, tu sais, j'ai pas joué beaucoup, là, mais j'ai. Au deuxième étage, j'ai une pièce qui mène vers le coffre-fort de Picsou.
Ouais.
Qui est là, j'ai un corridor en fait en escalier qui est décoré comme le Ghost dans Star Wars Rebels. parce que j'adore Rebels, puis je trouve qu'il est tellement peu servi par Disney right now, ils font peu de choses, mais il y a une grosse place dans Infinity, je suis vraiment content.
Puis quand t'es dans la maison, il y a plein de petits town people qu'ils appellent,
ouais,
que tu peux parler, puis il y en a qui posent des questions de trivia sur comme plein de franchises de Disney.
C'est super,
c'est vraiment cool.
Cool.
Puis quand t'as la bonne réponse, souvent ils te le donnent en sidekick parce que c'est pas un système de sidekick là.
Ça me fait penser à Oness. Ouais, faut que je me remette dans le rétro, tu sais. Il y avait un jeu de Disney, je pense que c'est Disney Magic Kingdom, fait par Capcom, que c'est comme aller à Disney World pour faire différentes attractions, mais il y avait des quiz aussi là-dedans. Okay. Ça m'a vraiment fait penser à ça.
Ah, mais c'est cool, puis là, il y a des affaires que j'ai aucune idée, puis là, ah, une question de Star Wars, bang, nailed it!
Puis j'ai un sidekick de Darkwing Duck.
Oh, il était carrément.
Parce que fucking Darkwing Duck, faites-moi une figurine Infinity de Darkwing Duck que je tapisse mes murs dans la chambre avec. Il était carrément.
J'imagine à la banque, ouais, je voudrais un prêt pour 22 000 $, pourquoi je veux acheter comme
des Darkwing Duck.
Comme plusieurs Darkwing Duck.
Raison du prêt, Darkwing Duck.
Ok, oui, c'est. On ouais. comprend.
Ah, t'es deuxième cette semaine.
En plus de la maison, t'as une ferme que tu peux aller comme pogner de la bouffe pour booster tes sidekicks.
C'est
t'as
cool,
comme un
là.
Paquet de secteurs qui sont bons. T'as le secteur platformer, le secteur comme
course.
Puis il y en a comme déjà qui sont dedans, c'est ce qui est vraiment le fun.
Ouais. Fait que tu sais, même quelqu'un qui. Parce que tu peux acheter juste le. Si t'as déjà la base, tu peux acheter juste le jeu 3.0. Sans avoir aucun des playsets, tu peux quand même l'acheter. Ce qui fait que tu as accès à tout ça.
Et puis pas dans un playset, toutes les figurines de 1.0 jusqu'à 3.0 fonctionnent.
Mm-hmm.
Bon, moi j'ai découvert qu'il y en avait comme au micro-play à Joliette des figurines des
Use.
Anciens Use à moitié du prix. Possible que j'aille me chercher un Groot puis un Raccoon là parce que
Rocket Raccoon. Je sais qu'on geek out des jouets là, mais je suis pas un fan du personnage, mais la figurine j'ai trouvé 40. Yondu. Le dos en bleu dans Guardians of the Galaxy.
Ouais.
La figurine était 40 avec son trench coat brun, puis un qui est placé. Je trouve que c'est une des super belles figurines.
Mais en tout cas, c'est le fun parce que quand t'es pas dans un playset, tu peux jouer avec n'importe quel bonhomme. T'sais, moi, ma blonde, elle veut vraiment, je pense que j'y achète. Elle m'a parlé un peu de Donald Duck. Ou en tout cas, tu sais, je pense que je vais y en acheter une pour qu'on puisse au moins jouer ensemble en dehors du playset de Star Wars
ben
parce
ouais.
qu'elle est sans sac. Là. Mais en dehors du playset, il y a plein de jeux le fun. Plus c'est... le contenu créé.
Et toutes les. J'ai pas encore joué de pantoute
dans le
créé,
j'ai
mais
pas touché.
C'est sûr qu'il y a du stock énorme.
Ben, il y a du stock qui est créé par Disney en partant, fait que c'est quand même cool, il y a un petit côté de comme qui doit avoir de la qualité là-dedans. Là.
Ben, il y a des membres de la communauté qui ont été engagés
mm-hmm.
pour créer du contenu.
Pourrait.
Ah, carrément, wow. C'est hot. Puis en plus, toi, je sais que tu l'as pas eu, tu l'as pas précommandé, mais il y a le Toy Box Takeover que vous
ouais.
avez joué un petit peu ensemble, toi et GF. C'est cool, c'est vraiment le fun.
Un genre de Diablo-esque, isométrique.
Je sais que tout le monde le décrivait comme ça, mais il y a beaucoup plus de platforming dedans.
Ouais.
Mais le système de sidekick là-dedans est vraiment cool, que tu peux carrément équiper ton sidekick d'une armure, d'un casque en fait, là, qui est complètement ridicule sur sa tête en plus, qui rajoute
peux,
au bonheur.
Tu peux fight avec Darkwing Duck.
Tu mets le petit casque de centurion, tu piches, ça explose.
J'ai mon petit Darkwing Duck, quoi, que tu crises des coups de pied pour qu'il perde
dans
le stock.
Ça, c'est cool parce qu'il l'a pas dans les playsets. En tout cas, je sais pas s'il y en a dans les autres, mais dans les playsets de Star Wars, il y a pas le système de sidekick pantoute. Fait que tu sais,
non, c'est vraiment
faut que tu
ça.
Joues à l'extérieur. Là, ouais.
Puis que ça se connecte avec la ferme aussi parce que t'as la
ouais.
bouffe qui monte le système de stats. C'est vraiment c'est un bel ajout. Puis je suis vraiment content que je précommande jamais rien. Là. Lui, je l'ai précommandé parce qu'il donnait ça avec.
Ben, c'est ça, c'est un beau
ça
bonus.
Va à peine.
C'est un beau bonus.
Ils vont le vendre 20$ down the line. Ça vaut le 20$ sans aucune hésitation. C'était gratis. Puis même le jeu de base, au prix où ils sont rendus les caliques de jeu aujourd'hui, il était 65$ le jeu de base.
Regarde mon bundle. Le bundle avec le jeu de base, plus deux playsets, plus une figurine de plus.
Ben plus un playset parce que t'en as déjà un dedans.
Ouais, moi c'est ça. Ouais, mais tu sais, t'aurais pas acheté le jeu de base, pas de playset.
Ouais.
Mais le jeu, les deux playsets, quatre figurines parce que chaque playset vient que deux, plus le Boba Fett. Ben c'était 115. Y a pas gros rabais.
Y en a pas.
Mais ben peut-être avec le Boba
65,
Fett.
35, 15. C'est le même prix.
Okay.
Mais
c'est une bonne valeur. Tu sais, c'est 115 pour comme deux jeux plus un autre jeu qui est quasiment infini. Plus des figurines qui sont vraiment belles sur une tablette.
Ils sont écœurantes. J'adore le look visuel. Je sais que je me répète là, mais il y a une couple d'années, il avait fait des figurines de Star Wars, ben des statuettes de Star Wars, qui avaient un look très très semblable. J'en ai deux ici. Puis je trouve ça vraiment triste que ça ait juste, que ce soit juste mort, ce look-là. Mais le lien est facile à faire, là. Il se ressemble beaucoup.
Bon, je trouve que les mains sont pas assez grosses. Mais en tout cas, là,
on
est vraiment sur une belle grosse dérape, là. Mais moi, j'étais arrivé, j'ai vu ça, j'ai fait « fuck you ». J'aurais voulu pas le voir parce que là, je me le suis pogné. puis j'ai du fun depuis ce temps-là.
Personnellement, moi, je me suis retenu parce que j'avais pas le temps. J'étais occupé, puis j'avais pas le temps de faire ça, puis
non, mais
je pourrais pas rester une semaine de plus. Honnêtement, surtout que là, on en parle, je suis comme...
Non, mais je pourrais sûrement acheter le kit pour PlayStation, faire un rabais sur le base kit, puis garder le kit de Rise of the Empire, puis le Boba Fett. Pas attendre. Genre, il reste comme deux semaines et demie, genre, avec ça. Mais le Boba Fett sort en janvier, ouais, par exemple.
Tu sais, moi, j'ai tout le temps évité ces affaires-là, les amiibo et tout ça. Bon, j'ai rien qu'ils utilisent, mais même si j'avais de quoi qu'ils utilisaient.
Ben, il n'y a rien qui utilise les amiibo, vraiment.
Ni personne.
Il n'y a pas de cassette qui explose les amiibo. Non, mais. Puis là, je sais que je vais avoir de la misère, là, à pas aller m'acheter Yoda parce qu'il est écœurant, Vader quand il va sortir, Darth Maul quand il va sortir, Chewie quand il va sortir. Asti, ça...
fuck off, moi j'ai fait tout.
Ouais.
Moi c'est fini, là. Puis je sais déjà ce qui sort à la fin du mois, là. Puis je sais exactement comment ça va me coûter. Parce que telle figurine vont être disponibles. Je le sais, là.
Ouais.
À quand un Rocketeer dans Disney Infinity?
ils ont réussi solide, là. Ils ont leur cash grab fonctionne. Puis avec le Star Wars, là, pour le 3.0, là.
Ouais, mais ils ont les franchises pour le supporter.
Ben,
ah oui,
ils ont acheté notre jeunesse.
Ah oui, ils ont Pixar, ils ont Star Wars, ils ont.
Ben, il était déjà une grande partie de notre jeunesse.
Ben, de Disney de base.
Ben, là, tu rajoutes Marvel, rajoute Star Wars. Mais c'est dans les deux les plus souvent requested, il y a Rocketeer puis Darkwing Duck. Puis j'espère qu'ils vont y aller pour les deux.
Sûrement.
Ah, s'il vous plaît, Rocketeer, c'est super belle.
ils commencent avec des classiques, là, Mickey, Minnie, Donald sont sortis. Donald était deux, mais genre, tu sais, ils sortent quand même des classiques tranquillement. Ah,
puis en plus, là, c'est qu'on le sait, à peine, là, ce qui s'en vient dans le 3.0 encore. Là. La schedule là, est à peine.
Ouais, on a
détaillée.
Un mois d'avance. Là.
Puis encore, c'est ça.
Puis on sait que Boba Fett va sortir maintenant en 2016 parce qu'il est déjà sorti dans le bundle. Fait
c'est ça.
C'est pas une surprise qu'il va sortir à un moment donné.
On sait qu'il va y avoir des figurines pour Star Wars épisode 7.
Ouais.
On sait pas lesquelles encore. On a vu Rey et Finn, je pense. Mais tu sais, j'espère qu'il va y avoir un petit pilote orange parce que j'adore les pilotes dans Star Wars. Non, c'est ça. Ben, bref, ça a été l'intro de la soirée involontaire. Jeff voulait juste que j'y montre c'était quoi le jeu. Puis on est parti à jouer. Puis
on a passé beaucoup trop de temps là-dessus. Trop pour ce qu'on voulait faire, en fait. Là.
Après ça, on s'est enfergé dans les technicalités. Je me suis enfergé à faire marcher Curses and Chaos sur la TV. Parce que je voulais plugger ma tablette, ma Surface Pro. Je l'ai plugué pour qu'on joue sur la grosse TV dans le salon. Ça a été le bordel un peu.
Avant, on aurait dû quand même y penser puis le tester un peu avant. On a fait comme. On est trois gars qui sont pas prêts dans le techno, on va s'arranger.
Fait que bref, ça s'est enfargé, j'ai sacré un peu. Enfin, je l'ai marché avec les manettes de SNES, même avec un mapper de contrôle, le jeu, je connaissais pas toutes les manettes. On a fini par plugger les manettes de Xbox, ce qui pouvait peut-être être les pires caliques de manettes pour ce jeu-là, parce que les manettes de 360, le D-pad, il est dégueulasse. Puis c'est un jeu plus à jouer avec le D-pad Curses and Chaos. Là. C'est un jeu plus à jouer avec le D-pad qu'avec l'analogue, ce que je trouvais un peu plate. Puis c'est pour ça que je voulais le contrôleur de SNES. Mais bon.
Mais mettons vite, là, Jeff, veux-tu expliquer vite le jeu, tu sais, faire une review, là, mais pour que le monde sache un peu comme quel genre de jeu, là, tu sais.
Curses and Chaos,
ouais.
Quel genre de jeu? C'est. En un mot, mettons, c'est.
En un mot, ben là.
Ben là
le.
C'est un déterminant.
C'est un déterminant, mais mettons, en un adjectif, pour rajouter.
Ben.
Ok, Calis, Dani, explique-moi c'est quoi le jeu.
T'as grosso modo, t'es deux personnes sur un tableau, le tableau est statique.
Ouais, mais je cherchais un style en fait. Oh. Je cherchais à décrire le style de ce que c'est, ça je peux le faire.
2D, Arena, whatever.
Beat 'em up, Brawler, whatever.
J'arrive pas à trouver un jeu analogue à ça.
Non, vraiment pas.
Non, très peu. Ouais.
Pourtant, c'est un concept simple.
T'as des tu peux jouer tout seul, tu peux jouer à deux. Il y a deux personnages. Personnage féminin, personnage masculin.
Ouais, Léo puis Léa.
Léo puis Léa, qui font exactement la même chose, en fait, les mêmes contrôles. Et c'est... à une différence majeure près.
Faut que tu reviendras.
On y revient. Puis en fait, c'est vague après vague après vague d'ennemis. Des gobelins, des fantômes, des... corbeaux, vautours.
Bref, un paquet de créatures.
Un paquet de créatures. C'est wave après wave, faut jusqu'à qu'on arrive à un boss à la fin.
Puis en fin de semaine, quand il n'y a plus, puis que les grenouilles traversent la rue, j'ai juste le goût de débarquer mon char, puis
les uppercutés.
Les uppercutés.
Non, mais toujours dans un tableau qui est fixe, là. C'est un écran.
Ouais, c'est
puis,
ça.
Cet écran-là ne bouge pas de là.
Zéro scrolling, tout est là.
Aucun scrolling. Et il y a quand même un petit côté. Pas le leveling, mais où avec. L'argent que tu ramasses en tuant les monstres, tu peux aller voir un personnage dans les menus qui peut te vendre
mais bref, sans faire
des
ressources.
Non, c'est ça, mais tu sais, c'est assez basic. C'est un beat'em up assez basic. Dans
dans l'esprit des jeux
dans la lignée rétro, des ouais, c'est ça.
Dans la lignée du rétro où c'est un jeu qui pardonne pas là.
Non.
Exactement. C'est difficile, ça pardonne pas. Et on s'est peut-être même rendu la vie plus difficile que prévu.
Ouais, c'est ça.
Définitivement.
C'est un jeu qui pardonne pas, mais quand tu te plugs sur une TV HD puis qu'il y a une latence d'à peu près 1/8 de seconde, c'est rough, t'sais. Parce qu'on était en train de jouer, puis je commençais à sacrer. Je commençais à trouver ça vraiment poche. Surtout que j'ai essayé ce jeu-là au Comic-Con à Montréal. Puis c'est pour ça que j'avais hâte qu'il sorte.
Parce que parce que c'est développé par Tribute, qui est une compagnie de Montréal. Là. C'est des Québécois.
Exactement. Puis j'avais hâte de jouer. Puis là, je jouais. Puis tu sais, t'arrives au point. Je suis pas bon pour détecter la latence qu'il y a comme ça dans les jeux. Je m'adapte bien en général, fait que j'en dirais que je la remarque moins, j'ai l'impression. Ou je suis juste moins bon, je ne sais pas. Mais j'arrive, puis je vois, il y a des ennemis qui viennent me sauter sur la tête, puis je le sais pertinemment que je serais pas capable de l'éviter. Je me dis, le contrôle, il est lent, mais je pense pas au lag, tu sais. Puis là, c'était ma tablette, comme j'expliquais tantôt, c'était ma tablette qui était pluguée sur la TV HD dans le salon ici. Puis là, je commence à. Je baisse la tête, puis je regarde, puis je fais juste bouger mon bonhomme gauche-droite, puis là, je vois vraiment qu'il y a un délai. Puis là, je descends du divan, puis là, je me mets à genoux juste en avant de la tablette, puis je fais « Non, mais ça va bien mieux là-dessus. » Fait que là, on est en avant de la TV 60 pouces dans le salon, on est à côté sur le pouf, puis on joue sur la tablette.
Grown men.
À genoux d'un petit écran 10 pouces.
Grown men, c'est que extérieur.
Oui, c'est au sens de la loi.
Trois enfants barbus.
Juste légalement grown men, fait qu'on n'a plus le droit de toucher aux plus jeunes. En tout cas,
ouais, mais non, tu sais, c'est correct que c'est pas nécessaire non plus.
Non, mais juste la distinction est là, c'est
ouais,
tout.
Ouais.
Là. Fait qu'on est juste là à côté sur le pouf, à jouer sur l'écran de 10 pouces de ma tablette.
Mais là, puis, ça a commencé à être le fun,
là, exemple. Ça a commencé à être solide. Là, on a nailé le boss, là. On a fini le tableau qu'on n'était pas capable de passer d'aucune Christie de façon, ouais. Là.
Non, ça devenait frustrant, là.
Ah non, j'étais en crise. J'étais mais, complètement en crise.
Bref, ça a été un. Moi, j'ai moins joué un peu, là, parce que, ben, en fait, ouais. Vous aviez découvert le lag pendant que vous étiez en train de jouer. Vous étiez en train de donner pas mal bon, puis ben, je vous laisse aller pour qu'on voit moins de maudits boss. Si je pogne la manette, moi, je vais mourir en 30 secondes. J'ai pas assez joué. Non, c'est un jeu qui est vraiment intéressant. Je vais probablement finir par me le pogner à un moment donné, que je vais me chercher de quoi à jouer sur l'ordi. Mais c'est un beau jeu, là, c'est twitché à côté, c'est ouais. Difficile, c'est un beau défi. Ouais. Tu sais, contrairement à tantôt quand je chialais du niveau discuté qui monte comme ridicule, non, lui il est tough en partant, tu sais à quoi t'attendre, puis tu sais, à un moment donné, tu commences un peu à apprendre les ennemis. C'est un méchant beau jeu. Visuellement, ça a beau être en.
Il set le ton rapidement.
Oui, oui.
La première fois que tu vois la grenouille arriver dans l'écran, le ton est donné.
C'est ça.
Ben, c'est,
you're
c'est...
gonna die.
Yeah, c'est ça, c'est un beau jeu, puis. Je pense qu'on aurait tous voulu jouer plus pour réussir à avoir un review, mais là, on a comme accroché dans Star Wars, on a accroché sur le problème technique. C'est pour ça qu'on en parle dans notre discussion, mais c'était une première soirée de divan gaming intéressante, puis ça risque de se répéter. Là.
Ouais.
De toute façon, avec Star Wars, juste parce qu'il y a des challenges qu'il faut qu'on fasse à deux, anyway, on va vouloir s'asseoir puis les faire.
Mais moi, j'avais l'impression vraiment qu'on s'était cédulé puis aligné pour une soirée gaming, divan, co-op, Curses in Chaos, puis ça l'a viré en une soirée gaming, divan, co-op, Disney Infinity.
Ouais. Ouais.
Beaucoup plus. Parce qu'on est clairement accroché là-dessus.
On était sur le tard pour commencer, mais Infinity a pas aidé, là.
Ah non, vraiment. Ben, tu sais, c'est pas pour rien. Le lendemain, Esti, j'étais chez Walmart à l'acheter.
Ouais.
Non, le lendemain, Mathieu m'a envoyé une photo pour me prouver qu'il en restait chez Walmart avant que je passe chez Walmart pour me l'acheter.
Le gros bundle.
Le gros bundle.
Mon Esti.
Tant qu'elle me l'acheter, tu sais. C'est tant qu'elle l'a acheté dans un mois, elle m'a l'acheté tout de suite.
Ah, comme ça, tu vas être déjà parti pour acheter toutes les figurines.
Les figurines après.
Toutes.
ouais. Mais non, ça a été une soirée le fun pareil. Mais Infinity nous a accrochés, puis gars, moi j'arrête pas de jouer, là, c'est n'importe quoi. Là, le matin, je suis préparé pour la job. Bon, il me reste 20 minutes. Je pense que je vais partir le jeu. Écoute, j'ai pas fait ça depuis genre que j'avais comme 15 ans, jouer 20 minutes avant de partir, là, tu sais. Ah, et là, je le fais.
Juste avant le podcast, justement, j'étais en train de jouer parce que, tu sais, j'étais en vacances, mais j'ai rien eu le temps de faire à peu près. Puis là, je dis, bon, ben, Danny m'a prêté son Play 7, fait que calé qu'avant qu'il reparte avec, je vais jouer un peu. T'sais. Puis là, je commence à jouer, puis le sourire dans ma face quand je fais une mission dans le Play 7 de la trilogie originale, t'arrives à la cantine de Mos Eisley. Si vous connaissez pas Star Wars, fuck off, skippez ce bout-là. T'arrives à la cantine de Mos Eisley, puis t'as juste un des membres du band de la cantine qui est là, puis il joue tout seul sa flûte. Puis il dit, ah ouais, on avait une gig ici d'asseoir.
Mais là, on la reconnaît pas. Ben, non, on la reconnaît un peu, à peine, mais c'est la toune connue, là. C'est
un instrument sur 5 plus qu'il y a dans le track. Là, il dit ah, oh, on avait une gig ici ce soir, mais j'ai oublié de le dire aux autres. Peux-tu juste aller les chercher puis les pitcher sur le stage? Très très en ligne avec les mécaniques du jeu.
Parce que les mécaniques du jeu, c'est pas comme tu pèses quelqu'un puis tu le grabs, tu mets sur ta tête puis tu pars avec. Là.
Puis là, bref, tu les cherches dans la ville, puis j'ai pas vu qu'il y avait de quest marker, hein. Faut que tu les trouves.
Oui, non, il y a un marker.
Ah, calé, moi, je les ai pognés visuellement parce que tu les vois avec les petites notes oranges qui lèvent en haut de leur tête. Fait que tu grimpes à quelque part de haut puis tu les vois au loin. T'es pong, mais quand t'approches, en fait, tes entends qui jouent.
L'instrument.
Juste leur instrument.
Juste cette track-là.
Il y a un dude, c'est percussions, c'est juste. Toum, 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 toum. Puis là, tu le pognes, tu l'amènes, puis là, tu le repitches sur le stage, puis t'entends que ce qu'il jouait, il continue à jouer.
Les tracks
ça,
sont
ça se layer ses tracks, puis là, toutes les tracks s'empilent, puis quand t'as vu toute la band, t'as fucking le thème de la cantine de Mos Eisley qui joue. C'était tellement un moment. Regarde, regarde.
Mais c'est vraiment ça. Moi, j'étais chez nous, j'étais plus en bobette à ce moment-là, j'étais okay. Habillé quand même. Ah, ouais, ouais. Mais je faisais cette mission-là, puis c'était ça, j'étais comme. Oh, c'est bien drôle, oh, c'est la toune. Puis là, t'en amènes un, hey, on commence à reconnaître. Puis là, tu vas chercher un autre, hey, c'est vraiment cool. Puis là, check ma blonde, check ça. Elle, Star Wars, elle connaît pas ça, là, vraiment pas. C'est hein, ok, ouais. Je fais, mais check, là, il y a trois tracks, mais aller chercher les autres. Puis là, tu repars, tu veux finir l'émission, pas parce que c'est une mission, puis ça va donner de l'XP. Tu fais l'émission juste parce que tu veux voir la petite toune au complet, là. C'est... Non.
Puis en plus, t'es entends, quand t'es sur le top, à l'entour de la cantine, t'entends la musique, puis il y a comme un trou dans le toit où ils sont. Fait que t'es entends dehors. Fait que même quand tu commences avant de faire la quest, t'entends juste comme vaguement un bout de la toune. T'es comme. Quoi que ils ont pas les droits, là. C'est comme carré que c'est Disney.
Ils ont pas les droits.
Mais t'as la track, tu sais. Puis là, tu finis la quest, puis à partir de ce moment-là, tu l'entends.
Mais tu vois, c'est clair qu'il y a plein d'affaires, il y a plein d'easter eggs cachés. Un qui est comme les plus connus. Puis moi, je savais pas, là. J'ai lu sur le jeu dans les reviews, mais pas dans le fan, puis tout ça. Fait que là, tu commences à faire des quests, puis. C'est clair que dans la distance, c'est pas réaliste pantoute, mais juste à côté de Mos Eisley, t'as Jabba. Tu arrives au palais de Jabba, t'as même, quand t'arrives la première fois, t'as le petit œil qui te check comme dans le film, tu rentres, puis t'as Jabba qui est là, qui t'envoie chercher des objets. Puis quand tu regardes où est-ce que les objets que tu as ramassés qui sont comme qui valent cher sont là, tu te retournes, puis t'as de la carbonite au mur, ah, c'est quoi? Tu te retournes, tu regardes, asti, Jar Jar Binks dans la carbonite. C'est ça! C'est pas le plus beau clin d'œil à ta propre franchise. C'est de toute beauté.
Ah,
quand tu te retournes sur Jar Jar dans la carbonite, c'est comme. C'est la seule façon que je veux voir Jar Jar.
Spoilers!
Ça va le passer sur Reddit.
Non, ah, écoute, ça c'est. Fait que c'est sûr qu'il y a plein d'autres clins d'œil partout.
À cause
là.
Que toutes les échelles sont comme écrasées, ça file comme un theme park. T'as comme Mos Eisley, t'as comme 150 pieds, t'as le palais de Jabba.
C'est ça.
À gauche, t'as genre la Jabba Barge qui est là.
Oui.
Avec le Sarlacc Pit à côté.
Le Sarlacc Pit.
Fait que là, sérieusement, comme je dis tantôt, si vous connaissez pas Star Wars, fuck off.
Rien de plus agréable que de dropper un Jawa dans le
Sarlacc Pit. Ah, je l'ai pas fait. En fait, je pense que je vais mettre ta figurine de Boba Fett juste pour sauter dedans.
T'as tes tours sur. Ouais, regarde.
Non, je suis pas là, j'ai rien fait encore sur Sarlacc Pit.
Mais c'est de toute beauté, vraiment. Puis oui, ça a l'air un peu Theme Park. Puis t'as le canyon, là, où est-ce que. Tu sais, j'oublie le nom.
Beggar's Canyon.
Ouais, puis t'as une mission comme quand tu unlocks les vaisseaux qui est passé dans le canyon puis de shotter des Womp Rats
avec le T-86 Hopper qui est tout le temps référé dans le dialogue de Star Wars mais qu'on n'avait jamais vraiment vu puis là il est dans le
fait
jeu.
Que c'est écœurant pour ça. Je pense que de ce côté là le côté
c'est un theme park.
Oui, c'est un theme park puis le playset de la saga originale. Écoute, j'ai regardé vite tes planètes là. Puis tu fais comme la saga au complet en méga accéléré, là. Mm-hmm. Mais c'est de toute beauté. Puis là, tu sais, ils ont comme des adaptations pour que tu peux jouer avec n'importe quel des quatre personnages originaux en partant.
À n'importe quel moment.
T'sais, tu commences, puis t'sais, Anne et Chewie sont là, même si. Mais c'est vraiment.
C'est beaucoup plus drôle le jeu de la trilogie originale que des prequels.
Ouais.
Le jeu des prequels file comme un jeu de Clone Wars.
Oui, puis
ça a le ton, ça a les voice actors des Clone Wars, toutes les interactions.
Puis c'est vraiment. Tu sais, là, je suis en train de jouer ça là parce que je. Prête mon playset à Mathieu en disant ah, j'aurai pas le temps là, c'est mon gars à la job cette semaine, j'aurai pas le temps de jouer de toute façon, je te le drop mardi parce que fallait que
je cherche mon projet. Est-ce que ça a un once de regret ici?
Non, quand même pas. Puis finalement j'ai trouvé du temps parce que c'est ça, mais fait que j'ai droppé mon autre playset
hashtag no sleep.
J'ai même pas, c'est ça le pire. Puis c'est vraiment cool parce que là c'est tu sors du côté fanservice, tu sors du côté puis t'as un Christy de bon jeu, par exemple.
T'as un bon jeu
de
Clone Wars.
Histoire, un bon jeu de Clone Wars qui, malgré ce que vous me dites de faire, je continue de finir d'écouter mes Clone Wars. Là.
je te dis juste de pas toutes les écouter, c'est pas nécessaire.
Mais tu sais, je continue de les écouter, puis j'aime ça les écouter, puis surtout que là, je suis rendu en saison 4, Ahsoka est pas mal le plus importante, puis je trouve que c'est un beau personnage. J'ai hâte de voir, puis là, spoiler-moi rien, là, j'ai hâte de voir comment, qu'est-ce qui va se passer entre les Clone Wars puis l'épisode 3, ils vont sûrement, il y a sûrement une explication comme qui explique qu'est-ce qui se passe. J'espère pas juste que ça finit 7e saison, ça finit un peu dans le vide. J'espère qu'il y a de quoi qui explique pourquoi il est pas là dans l'épisode 3.
Sans rien spoiler, t'auras pas besoin d'attendre si longtemps.
Mais c'est génial.
C'est la viande de la série, tu vas triper.
Mais c'est ça. Mais j'ai comme tellement commencé à accrocher sur ce personnage que c'est genre de voir ça, mais que quand j'ai décidé de mettre mon playset là, fuck it là, je joue pas avec Anakin. Je joue avec Anakin quand je crève là, parce que bon, j'ai pas le choix. Parce que il est pas mal plus punishing, je trouve, que celui de la trilogie originale là, au niveau des combats là.
Plus
des fois là, c'est plus rough. Mais en même temps, j'aime ça, c'est un beau challenge là. Puis, mais c'est un bon jeu, mais t'as pas le côté humour puis absurdité du playset de la série originale. Là.
Très peu, mais en plus, ça va à peine qu'on le dise, le playset des prequels, c'est Devil May Cry Lite.
Vraiment.
C'est du diète Devil May Cry, mais c'est calique pour le genre de jeu que c'est, pour l'univers que c'est. C'est vraiment un bon petit action platformer avec un système de combat, de combo puis tout le kit. C'est impressionnant.
Moi, j'arrête pas de jouer, j'ai beaucoup trop de fun. On voulait pas vraiment faire un review, finalement, on a comme... Ben, faites un review commun un peu du jeu, puis on a causé une dépense à JF.
Mission accomplie.
Moi, je pensais pas pogner ce jeu-là. Tu sais, comme, bah, c'est une affaire pour enfants, pour dépenser des figurines, mais fuck it. C'est vraiment un bon jeu pour dépenser pour des figurines.
Faut s'assumer
mais,
en tant que.
Que j'assume enfants. Que les figurines, ils sont belles, puis ils sont le prix d'une figurine. Tu sais, c'est pas comme 35$ parce que tu peux jouer avec, c'est le prix d'une figurine. Fait que tu fais comme. Ok, tu sais.
Non, c'est ça. Ben là, il va y avoir les versions des Jedi avec les lightsabers qui allument. Ça va être une pièce de plus.
Ben là, fuck it. C'est sûr, je les achète.
Et voilà, fait que tu as toutes tes figurines en double.
Tout ce que je viens de dire, là.
Ben voilà, toutes tes figurines en double.
Ben je vais peut-être attendre, mettons, pour ceux que j'ai pas, comme de l'acheter juste cette version-là. Ouais, Jean Vader.
T'en as déjà deux.
Oh, mais il venait avec.
Mais c'est ça le catch. Mais bref, c'est super le fun. Puis j'allais juste dire avant de finir de parler de juste avant de qu'on parte le podcast, le dernier segment que j'ai fait, c'est la Death Star, Trench Run. Ça file, encore une fois, comme on avait Devil May Cry Light, là c'est Star Fox Light. Puis ils en ont fait un tableau assez.
Tu peux faire des barrel rolls.
Tu peux faire des barrel rolls, tu peux faire les loops de loops. Puis ils ont fait un tableau cool à jouer. Je vais rejouer le tableau, c'est sûr. Tu peux aller reloader le tableau, je vais aller refaire la Death Star, c'était vraiment le fun.
Ouais, puis il y a un système d'étoiles pour les missions qui est comme. Ouais. T'as le goût de le rejouer, là. Puis des fois, l'étoile qui te manque, c'est juste. Ok, fallait jouer avec Anakin ou avec une figurine
de GPS. Mais là, pour ce tableau-là, c'est plus loin que ça, là. T'as 4 types d'objectifs. Puis t'as un gauge en pourcentage, puis t'as des awesome, des great, des good. Fait que t'as une crise de bonne raison de jouer pour les grimper. Okay,
puis c'était juste plein de fun, là.
Ah, c'était le fun. Des fois, tu te fais chasser par un tire, faut que t'évades. Des fois, faut que tu perdes dans un segment dirigé, là, parce que c'est tout on rails. Puis là, des fois, faut que tu dodges du stock dans une tranchée et tout ça. C'est
dans l'émission, t'as du space on rails, mais t'as aussi du space ouvert aussi. Là, c'est le fun, t'as les deux.
Star Fox Light. Puis en plus, il te mixe les deux seamlessly.
Mm-hmm.
Quand tu fais le bout du Beggar's Canyon, c'est on rails. Tu n'as pas de contrôle, ça va directement, tu fais juste éviter. Puis quand que ça finit, ils font juste décrocher la rail, puis tu t'en vas toi-même. C'est le fun.
Il
va falloir jouer avec le Toy Box, voir comment faire des combats spatiaux.
Il va falloir que je joue avec le Toy Box, voir ce que le monde en fait aussi. Ça va être. J'ai hâte de voir. Là. Ben, j'ai pas le goût, j'ai juste le goût de jouer mes playsets, mais je sais que genre, ça va être un jeu qui va pouvoir m'apporter bien des choses probablement. Là, parce que
mais c'est ça qui est génial. Là, pour... C'est le prix d'un jeu, mais il y a tellement de contenu.
Puis même pour le prix d'un jeu, là, je tiens à le préciser, là, 65$, qui est traditionnellement le prix d'un jeu, lui, c'est encore son prix. Et on parle d'un jeu avec un playset, avec le Toy Box, avec deux figurines, puis le kit de base. Fait que t'en as beaucoup pour ton argent, parce qu'après ça, pour ceux qui achètent pas le gros starter de Sony, quand que le set de la trilogie originale sort, c'est 35$.
Ça vient
deux figurines avec ton jeu. Puis tu peux facilement, dans le cas des jeux de Star Wars, avoir accès aux figurines des autres univers de Star Wars, des autres jeux de Star Wars, pour les utiliser dedans, ce qui fait que tu perds rien. T'sais.
Ouais, c'est ça qui est cool aussi. T'aimes trop ton personnage, tu veux jouer dans un autre. Comme c'est pas impossible que je décide pas de jouer avec Ahsoka moi, dans la trilogie originale, parce que j'aime vraiment son gameplay.
Ben, puis moi, j'ai acheté toutes les figurines de la série Rebels qui ont pas leur propre jeu. Fait qu'il faut absolument que t'aies des barres pour les jouer dans les jeux de Star Wars. J'ai hâte de faire ça.
Fait que ouais, on s'est un peu étendu, mais c'était ça a été une belle soirée de couch gaming qui nous a amené à découvrir, ben, en tout cas pour moi, à découvrir un jeu que je pensais pas avoir autant de fun avec.
Mais moi j'espérais que ce soit le fun. Je l'ai acheté anyway, mais je suis content que ce soit pas juste un rack à figurines.
On a oublié un élément important. Si on fait juste un.
Oh shit, Curses and Chaos.
Curses and Chaos.
Ah, vraiment? Ah oui, c'est le bout le plus important. Mais c'est bon. On va finir là-dessus notre soirée de Couch Gaming.
Fait que shakez-vous le pixel.
Hashtag se shakez le pixel.
Chacun des deux personnages ont une petite animation que tu pèses, je pense, par en bas pour faire. Dans le gameplay, c'est pour faire des grosses chaînes de combos, mais c'est vraiment tu shake le pixel. Le personnage masculin se shake le pixel en regardant des deux bords.
En regardant d'un côté puis de l'autre.
Puis le personnage féminin se shake les deux pixels en arrière, shake le popotin assez solidement. C'est écœurant. Quand je savais qu'il faisait ça parce que j'avais pogné une review. Puis là, on pogne le jeu, puis je pense que c'est la deuxième affaire que je fais. Tu sais, je check les contrôles un peu, ok, je tape les monstres. Puis là, hey, c'est vrai, on peut shaker le pixel, tu pèses sur le piton, puis.
Tous les moments de répit dans le jeu sont une occasion de shaker le pixel.
Et les moments moins de répit également.
Un check, je check le pixel, 28 000 monstres. Pis... Bref, ouais, shakez-vous le pixel.
Fait que, à tout le monde, on vous souhaite de vous shaker le pixel.
Vous avez le pixel.
Et à la prochaine fois.
Attends,
hop, excusez.
On va en conclusion comme il faut.
Ah ben oui, bien sûr, excusez-moi.
On a une conclusion maintenant. Donc, notre podcast maintenant, Divan Quest, est disponible sur Podomatic au podomatic.com/DivanQuest. On peut aussi le trouver sur SoundCloud à soundcloud.com/DivanQuest. Sur iTunes, sur Stitcher, c'est disponible en cherchant Divan Quest. Ça se trouve quand même bien. Si vous voulez l'avoir ailleurs ou si vous voulez nous envoyer du hate mail, suivez-nous sur Twitter, sur twitter.com/DivanQuest, par courriel au divanquest@gmail.com. ou sur Google, tapez Divan Quest, puis vous allez aussi comprendre notre joke d'ouverture du même coup. Donc, on se revoit dans deux semaines.